France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct mercredi 24 décembre 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, chers auditeurs, bonsoir pour cette émission en direct. Quand je dis chers auditeurs, évidemment, j'embrasse les auditrices. Jacqueline, pourquoi vous souriez quand j'ai dit ça? Parce que c'est la 92e fois que je fais cette blague, non?
Mais pas du tout.
Non, mais j'ai pas reçu encore l'édition 2004 de l'Alvéla Vermo. Alors je suis obligé de rester sur mon stock de l'an passé, de cette année qui se termine. Voilà, donc nous faisons cette émission en direct, par délicatesse pour les auditeurs qui vont nous écouter ce soir, par gentillesse pour eux, d'abord pour ceux qui sont seuls, pour lesquels nous aurons une pensée tout à fait particulière. Nous allons essayer de les intéresser pendant 3 heures d'émission. En direct, et puis également pour ceux qui sont pris dans les embouteillages, entre la recherche des huîtres et le foie gras et les toasts. Il y en a beaucoup, hein, c'est effrayant. Voilà, enfin, les gens qui sont dans le métro, dans les transports en commun, qui peuvent quand même nous écouter avec ces commodités modernes de la conversation qui sont les transistors et toutes sortes de baladeurs et de baladeurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, Jacqueline, oui.
Oui, dans le temps, c'était les fauteuils.
Dans le temps, c'était les fauteuils,
les commodités de la conversation.
Mais maintenant, c'est plutôt les instruments acoustiques, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'un instrument acoustique particulier, vous, en ce moment, non? Non, ça va?
Ça va encore, oui.
C'est pas comme notre président Chirachescu bien aimé, alors. Hein? Parce qu'avant, il se plaignait des odeurs et du bruit, maintenant, il n'a plus que les odeurs. Ça, il faut dire. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Alors voilà, donc, le programme de ce soir, eh bien, nous avons déjà dans le studio deux de nos invités, l'un qui va s'exprimer en première partie et l'autre en seconde partie. Puis nous avons une invitée, que nous aurons par téléphone, parce qu'elle est au loin. Parce que beaucoup de gens, c'est très intéressant de voir que pour Noël, peut-être davantage que pour le jour de l'an d'ailleurs, les gens se déplacent énormément. C'est l'occasion des réunions de famille, d'aller voir les beaux-frères, les sœurs, tout le monde qui est dispersé dans la France entière, enfin ce qu'il en reste de la France évidemment. Beaucoup de gens sont... Il est très très difficile de monter une émission le 24 décembre, je veux dire. C'est heureusement que c'est de 6h à 9h. Imaginez qu'on ait une émission par exemple de 9h à 24h, vous voyez. Ce serait quand même très compliqué.
Plus.
Ce serait très compliqué. Alors voilà. Donc, celui que vous n'avez pas entendu, mais qui s'est exprimé quand même, c'est David Foubert, qui est journaliste et qui est le directeur de la revue Les Épées, qui est un trimestriel, qui est dans sa 3e année de parution.
Oui, tout à fait.
C'est
bonsoir
ça.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, et qui est une publication dont on va parler.
Dont on va parler tout à l'heure.
C'est une très très bonne publication. Et puis alors, nous avons également dans le studio François de Crécy, qui est éditeur et qui vient nous parler. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais vous pourrez évidemment, cher François de Crécy, vous exprimer pendant la première partie, si vous le souhaitez, qui vient nous présenter, enfin nous allons présenter avec lui d'ailleurs un ouvrage magnifique qu'il a réalisé en collaboration avec notre bon camarade Benoît Manchon. C'est un album agenda Venise 2004, donc qui peut servir pour l'année 2004 d'agenda, pour ceux qui souhaiteraient, et puis qui peut servir d'album sur Venise pour les siècles des siècles.
C'est un livre en même temps qu'un agenda.
C'est un livre, oui, l'agenda, je dirais que l'agenda, c'est à la limite, on peut l'acheter même sans prendre cet agenda. Enfin, en plus, c'est un bel agenda. Les autres, c'est un agenda de bureau quand même. Ça a une certaine taille. On peut quand même pas le mettre dans sa poche.
Il peut très bien servir effectivement d'agenda.
Dans sa poche.
Mais l'aspect livre est important aussi.
Non. L'aspect livre est tout à fait. Enfin, c'est remarquable.
Et beaucoup de gens qui l'achètent, à qui je l'ai signé, disent on n'osera jamais écrire sur les pages de chaque semaine.
Pourquoi
il est trop beau.
Pourquoi pas? On peut au contraire y mettre des réflexions intelligentes. Voilà. Et alors on peut comme ça. C'est un livre qui peut s'écrire à plusieurs mains, y compris la main des personnes qui vont s'empresser de l'acquérir. Voilà. Donc nous sommes partis pour 3 heures d'émission, mais peut-être pour nous mettre, parce que nous sommes dans la nuit de Noël, enfin dans la pré-veillée de Noël. Et comme je voulais vous donner quelques informations sur l'actualité du film de Mel Gibson, qui s'appelle La Passion du Christ, c'est du moins la traduction en français du titre définitif du film, La Passion du Christ. Je souhaitais également on dira, oui, mais alors la Passion, Noël, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Parce que la naissance du Christ et sa mort sont exactement dans la même théologie. Pas le Christ naît dans une mangeoire, il est donc destiné à être mangé. Et le jeune Christ qui naît, l'enfant Jésus qui naît, c'est déjà le pain eucharistique. Et il va le devenir évidemment encore plus excellemment à la dernière scène et ensuite après l'institution de la Sainte Eucharistie. Alors n'oublions pas aussi que la fête de Noël, qui est toute évidemment très christocentrée, elle est, parce qu'elle est christocentrée, elle est aussi centrée sur la Vierge Marie, qui est celle par qui le salut est arrivé dans le monde, est entré dans le monde, comme le disent les hymnes célèbres de la Sainte Église catholique. Alors, pour nous mettre un peu dans cette ambiance de Noël, mais pas d'un Noël cucu, comme celui dont les télévisions, les médias nous rebattent les oreilles, ça nous remet vraiment devant la signification de l'enfant de la crèche, rien ne vaut mieux que d'écouter une méditation sur la très sainte Vierge Marie, et je crois que la personne qui me semble la plus autorisée pour parler de la Vierge Marie, et c'est quand même le chef visible de l'Église catholique, qui est le Saint-Père Jean-Paul II. Alors on va écouter de lui un très beau texte, une espèce de prière qui s'appelle une parole vivante de consolation, qui est tirée d'un CD qui vient d'être publié aux éditions France Productions, sur un choix de texte de l'ami Benoît Manchon. Précisément, Benoît ne peut pas être là ce soir parce qu'il est souffrant, malheureusement. Il a attrapé une double bronchite, enfin, avec un point de côté et puis un point de travers. C'est une horreur. Moi, c'est un zéro. S'il nous écoute, on le salue et puis on lui souhaite bien évidemment de passer quand même un joyeux Noël et puis de se rétablir au plus tôt, car nous aimons bien entendre sa voix sur Radio Courtoisie. Eh bien, à défaut de sa voix, nous allons entendre la voix d'un comédien qui lit ce très très beau texte de Jean-Paul II, une parole vivante de consolation. Et puis ensuite, eh bien, nous parlerons, parce que ça va nous mettre tout à fait dans l'ambiance, de la Passion de Mel Gibson.
Jean-Paul II, une parole vivante de consolation. L'annonce de l'ange à Marie tient dans ses paroles rassurantes. Sois sans crainte, Marie, et rien n'est impossible à Dieu. En vérité, toute l'existence de la Vierge Mère est enveloppée par la certitude que Dieu est proche d'elle et l'accompagne de sa bienveillante providence. Il en est ainsi de l'Église qui trouve un refuge dans le désert, lieu de l'épreuve, mais aussi de la manifestation de l'amour de Dieu envers son peuple. Marie est parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la mort. En nous montrant son Fils, elle nous assure qu'en lui, les forces de la mort ont déjà été vaincues. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. L'agneau immolé vit en portant les marques de la passion dans la splendeur de la résurrection. Lui seul domine tous les événements de l'histoire. Il en brise les sceaux et dans le temps et au-delà du temps. Il proclame le pouvoir de la vie sur la mort. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans le monde nouveau vers lequel tend l'histoire des hommes, de mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et tandis que, peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, nous marchons avec confiance vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, nous tournons notre regard vers celle qui est pour nous un signe d'espérance assurée et de consolation.
Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie.
Voilà, très beau texte, à la gloire de la très sainte Vierge Marie. Donc c'est extrait d'un disque compact, pour parler plus français, qui s'appelle Les plus beaux textes à la Vierge Marie, qui ont été réunis par notre ami Benoît Mancheron. C'est édité chez France Productions, 39 rue du Cherche-Midi, Paris 6e. Alors vous entendrez soit des textes très classiques, des textes même de la Sainte Écriture, des textes classiques de Saint Justin, d'Origène, de Saint Éphrem, etc. Des textes plus récents, plus modernes, comme on entendra tout à l'heure de Charles d'Orléans, prince capétien et grand poète. Et puis aussi de personnalités qui ont marqué la littérature française, comme le Pierre de Bérulle, qui est à la fois un théologien et un grand écrivain français, Victor Hugo, Frédéric Mistral, Blois, Paul Verlaine, Georges Bernanos, enfin, puis on termine par deux textes de Pie XII et de Jean-Paul II, dont on vient d'entendre, pour ce dernier en tous les cas, le texte admirable qu'il a écrit et qui a été parfaitement dit dans ce très beau texte. Voilà de quoi nous mettre un petit peu dans la perspective de Noël, qui n'est pas seulement que lampions et guirlandes, mais qui est aussi la réflexion à laquelle l'Église nous invite tous sur nos fins dernières, sur la réalité de notre vie et sur la signification de cette incarnation. Alors c'est intéressant puisque le pape dans ce texte évoque la figure du Seigneur lors de sa passion, maltraité, bafoué, flagellé, crucifié, et c'est évidemment le thème qu'a choisi donc Mel Gibson pour réaliser son nouveau film, qui sera donc sa troisième réalisation en tant que réalisateur, non pas en tant qu'acteur, puisque sa carrière remonte à 25 ans. Généralement on oublie d'ailleurs que, à part Braveheart, il y a eu aussi un film tout à fait admirable qui s'appelle L'homme sans visage. C'est une très belle méditation sur les rapports de l'adulte et de l'enfant, sur le rapport de la personne blessée dans sa chair, sur la... Vraiment un très 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 grand film, un très très beau film. Et voilà donc Mel Gibson, comme le savent déjà bien la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie qui nous font l'amitié de nous écouter depuis le printemps dernier, puisque Dieu sait si vraiment j'en remets les couches, c'est une affaire tellement importante, donc à réaliser ce film qui maintenant, dont le montage est aujourd'hui achevé, et film qui sera distribué sur les écrans, en tout cas les écrans américains, nord-américains, pour les États-Unis et le Canada, dès le 25 février de l'an prochain, 2004, c'est-à-dire pour le mercredi des cendres. Magnifique exercice pour entrer dans le carême que d'aller voir ce film. En principe, mercredi cendres, c'est jeûne et abstinence, donc on doit s'abstenir de spectacle. Mais ce spectacle-là est une parfaite, à mon avis, une parfaite entrée dans le carême. Alors la question de savoir quand le film sera diffusé en France, ça c'est une autre question à laquelle nous travaillons au sein de l'association que je dirige, qui s'appelle l'association Propatio, qui est au 22 de la rue Didot, Paris 14e. Mais je voulais vous entretenir ce soir d'un peu plus d'actualité. Et je vous redonnerai tout à l'heure l'adresse de cette association, qui a déjà plusieurs centaines de membres. Bon, ça a commencé il y a un mois, ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce pays, puis il y a vraiment des adhésions qui viennent absolument de toute la France. C'est très très curieux. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ça, parce que je l'ai écrit, donc ce sera dans le prochain bulletin intérieur de l'association, dans le bulletin numéro 2, mais il y a eu un phénomène tout à fait amusant qui s'est passé. Au début du mois de décembre... Voilà-t-il pas qu'on voit apparaître sur les agences de presse des textes extrêmement alarmants, en disant « Mel Gibson refuse de montrer son film au Vatican ». Oh, Bon. Alors, déjà, c'était un petit peu curieux, puisqu'on savait par ailleurs qu'un certain nombre de responsables du Saint-Siège avaient vu soit le film, soit des extraits du film. C'est le cas de Mgr Follet, qui est un archevêque américain, mais qui est le président de la commission pontificale pour les communications sociales, qui l'avait vu au mois d'août, au mois de juillet, je crois. Surtout, évidemment, son éminence révérendissime, le cardinal Dario Castrillonoios, qui est le préfet de la congrégation du clergé, qui avait vu, lui, la longue préversion, et dont il avait dit un bien fou. Il dit que c'était un chef-d'œuvre d'art et de foi, que tous les prêtres du monde devaient voir ce film. Alors, je m'étonnais de la teneur de ce communiqué d'agence de presse qui a été repris dans beaucoup de journaux. Bon. Alors, que s'était-il passé au juste? Eh bien, voilà. Donc, au début du mois de décembre, un symposium était prévu à Rome, qui, sur le thème Jésus-Christ dans le cinéma, et qui était organisé par un département du ministère de la culture, l'équivalent du ministère de la culture italien, que là-bas s'appelle pas le ministère de la culture, mais le ministère de je ne sais pas quoi. Il y a un département cinéma, et donc ils avaient imaginé de réunir des universitaires en collaboration avec la commission pontificale pour la culture que préside avec beaucoup de talent d'ailleurs notre compatriote, le cardinal Poupard. Certains organisateurs se disent, tiens, puisque c'est un symposium sur le cinéma et Jésus-Christ, peut-être on pourrait demander à Mel Gibson de nous montrer son film, puisqu'il l'a déjà montré. Bon. Et puis, évidemment, la production n'a pas voulu le montrer, puisque le film n'était pas achevé d'être monté parfaitement. Comme il s'agissait de réunir un symposium d'universitaires, etc., il préférait montrer un travail à achever. Bien, il n'y avait pas d'urgence. Alors, par une espèce de chose un peu curieuse, on en a déduit donc que ça a été une espèce de crescendo. Donc, la production du film refusait de montrer le film. C'est donc c'était pas montrable, c'était une chose un peu délicate à montrer. Après, on a dit que c'était le Vatican qui ne voulait pas voir le film. Et alors, ça s'est terminé, je dirais, en bouquet de feux d'artifice, puisque j'ai lu et j'imprime tout. J'ai imprimé 7000 pages hein, donc sur l'internet. J'ai vu dans un très récemment et postérieurement au 10 décembre, c'est important ce que je dis aux alentours du 14 décembre, c'est très rigolo ce que je dis parce qu'après je vais faire un petit analepse, un petit retour en arrière. J'ai vu sur un site communautaire juif un article titré « Le film antisémite de Mel Gibson censuré par le Vatican ». Là, on atteint le fond, quand même. Or, alors que tous ces gens se déchaînaient et se recopiaient les uns les autres, puisque les journaux sont ainsi faits que vous avez une ou deux agences de presse, ou trois, enfin, Reuters, Agence France Presse, Association de Presse, qui écrivent, qui se recopient les uns les autres, qui écrivent les mêmes bêtises, et après, tous les journaux du monde reprennent ça. Et personne ne va vérifier. Je veux dire, les gars n'ont même pas le quid. À quoi sert Google? À quoi sert Monsieur Google se décarcasse si les gars sont même pas capables d'aller faire une recherche sur Internet? Pas du tout. Donc ils se recopient les uns les autres. Et c'est comme ça que monte la sauce. Or, on apprenait à peu près conjointement avec cette série invraisemblable d'articles malfaisants, enfin, qualifier ce film d'antisémite, dire qu'il est censuré par le Vatican, enfin, dépasse le bon sens, ça dépasse le sens commun. Nous apprenions en même temps que le film avait été vu le 5 décembre, à Rome, par, on peut dire, toute la secrétaire d'État, autrement dit le cardinal Sodano et tous les gens de la secrétaire d'État, par la Congrégation pour la doctrine de la foi, autrement dit Ratzinger et tous les gens qui travaillent avec lui, et encore une fois par la commission pontificale pour la communication sociale, c'est-à-dire par Mgr Follet, tous ces gens donc président de Dicaster. Nous le savons puisque dès le 5 paraissait dans la presse, par les agences de presse du Saint-Siège, et puis officielle ou officieuse, Vatican Information Service qui est l'agence officielle, et puis Zénith, qui n'est pas une agence officielle mais qui est l'agence officieuse en quelque sorte, un très très long entretien accordé par un dominicain qui est le père Augustin Di Noia, qui est le sous-secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, enthousiaste sur ce film que venait de voir les très hautes autorités du Vatican. Bien. C'est quand même curieux parce que on a. Alors ça, nous l'apprenons malheureusement avec une semaine de décalage. C'est-à-dire que alors que le père Di Noia avait donné son interview, les autres journaux avaient brodé sur un non-événement pour en faire un événement extrêmement péjoratif pour le film. Ça, c'était la première chose. Dans le même temps, on apprenait dans des journaux anglais, des tabloïds, donc il faut toujours un peu se méfier, que le Saint-Père avait voulu voir le film. Voilà, Jean-Paul II voulait voir le film, s'il en avait entendu parler, évidemment, puisque il y a quand même, je dirais, pour prendre cette expression historique française, une bataille des cardinaux à Rome autour du film. Il y en a beaucoup qui sont pour et il y en a un qui est contre. Vous voulez savoir son nom, celui qui est contre ? C'est le cardinal William Casper. Il n'est pas pour le film, parce qu'il est très très engagé dans les affaires du dialogue interreligieux, machin. Il a la peur que ça fasse de la tristesse à certains qui, bon, c'est un poisson, enfin tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que on va quand même penser Noël chez moi et pas à Londres. Bon, alors voilà, parce que ça, c'était vrai, extrêmement amusant. Et donc, on apprenait que le pape voulait voir le film, etc., etc. Et puis, on apprend, effectivement, et ça, nous l'apprenons, il y a... après le 20 décembre, enfin nous l'apprenons il y a quelques jours, il y a 5-6 jours, donc, que le Saint-Père s'était fait projeter dans ses appartements privés, sans doute dans la nuit du 6 au 7 décembre, ou dans la nuit du 7 au 8 décembre, ça il est difficile de le préciser, le film qui était donc sous la forme d'un DVD. C'est le DVD qu'avaient vu tous les officiels du Vatican la veille, parmi lesquels assistait aussi Monseigneur Zidisch, qui est le secrétaire particulier, l'ami de Jean-Paul II, qui est archevêque maintenant, puisqu'il est passé dans le... Il a été... on a eu un archevêché, une partibus. Et à la fin de la... Mel Gibson n'était pas à Rome à ce moment-là, mais son associé, un de ses amis les plus proches, s'appelle Mackie Vitti, qui est un vieil ami de Gibson et un producteur et un des patrons de l'entreprise de production qui s'appelle Icon Production, avait donc apporté le DVD, et puis à la fin de la projection qu'on a vu sur des écrans de grands écrans de télévision, l'a donné à Monseigneur Zidisch, parce que Monseigneur Zidisch dit le pape voudrait bien voir ce film, et voilà, que le Saint-Père le garde comme un cadeau, etc., etc. Qui est un catholique, Mackie Vitti est un catholique. Autour de Gibson, il y a quand même pas mal de catholiques. Il n'y a pas que des catholiques, il y a beaucoup de catholiques. Il y a beaucoup de juifs aussi, il y a quelques juifs qui travaillent avec lui et qui sont à 100% pour le film et pour Gibson. Donc ça veut dire aussi que la communauté juive américaine n'est absolument pas à 100% contre le film. Quelques organismes, le Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, l'Anti-Defamation League of Nybrit de New York est contre le film, on comprend. D'ailleurs, il y a eu un incident il y a un mois, c'est que le directeur... il s'appelait, c'est le rabbin Eugène Cord, qui était le directeur des relations interreligieuses au sein de l'Anti-Defamation League de New York, dirigé par l'inénarrable et paranoïaque Abraham Foxman, qui avait mené un peu. Foxman a mené une guerre absolument à outrance contre le film, et outrageante et ridicule. Bon. Et il était plus ou moins secondé, peut-être entraînant un petit peu les pieds, par un autre de ses fonctionnaires, qui s'appelle le rabbin Eugène Korn, qui est lui, qui était le patron de l'Anti-Defamation League pour ce qui est du dialogue interreligieux, et il a été viré par Foxman. Sans doute, il n'était pas assez. Parce que je crois que Korn était un petit peu opposé à la façon dont on attaquait le film de Gibson. Bien. Donc, on s'en est débarrassé. Et donc, le Saint-Père a vu le film dans la nuit du 6 ou 7 ou du 7 ou 8 décembre dernier. La formation a été répercutée dans les médias qu'il y a que 5 ou 6 jours. Et le commentaire du pape tient en 5 mots anglais. D'abord, les dépêches ont été en anglais, puis ensuite, c'était traduit dans différentes langues. En anglais, ça donne « It is as it was ». Ça veut dire « c'est comme c'était ». Autrement dit, ce que j'ai vu, le film que j'ai vu, c'est exactement ce qui s'est passé. Autrement dit, c'est un coup de pouce formidable du pape au film. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Mel Gibson est connu pour étant un catholique, disons, plutôt intransigeant. Plus qu'intransigeant, même, quand même. Bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce film, qui est un film très marial, en fin de compte, très eucharistique, est aussi un film très œcuménique. Qu'il se trouve que quasiment dans les mêmes semaines, on apprenait le soutien du pape, et puis le soutien de Billy Graham, qui est le grand télé-évangéliste américain, un des conseillers spirituels de George Bush. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Enfin, on passe, ça, je ne veux pas regarder, ça ne me regarde pas. Soutenu par toute la, quasiment la curie romaine, enfin tout ce qui compte dans la curie romaine, les grands, ce qu'on appelle les grands dicastères, la foi, la liturgie, les prêtres, soutiennent le film comme tous les évangélistes américains. Que c'est un film qui est soutenu par tout ce qu'on appelle les baptistes du Sud. Alors, quand je dis les évangélistes américains, c'est très important. Le président, c'était Daggett, c'est un type assez costaud. Ils sont très, très sionistes, les évangélistes américains, contrairement aux catholiques, qui sont un peu plus équilibrés pour ce qui est du conflit du Moyen-Orient. Eux sont très particulièrement sionistes. Ça représente 47 millions, 48 millions de fidèles aux États-Unis. Bon, les baptistes du Sud, c'est au moins 35 millions de fidèles. L'Église catholique, c'est 60, 70 millions de fidèles. Donc, ça veut dire que les choses ont prodigieusement avancé et que ce film, dont on a dit qu'il était un film de haine, de division, de machin, est en fait un film qui rassemble tout le monde, y compris de très nombreux juifs et de nombreux rabbins aux États-Unis. Et c'est donc un film étonnamment écuménique, puisque tout le monde, protestants des différentes dénominations, catholiques de différentes sensibilités, que ce soit des disintégristes, des traditionalistes, des traditionnels, des normaux, des tout ce qu'on veut, des conciliaires, tout le monde est pour le film, voilà. Alors je tenais à dire, que pour que nos auditeurs soient bien rassurés, que eh bien, Rome locuta causa finita, hein, Rome a cette fois-ci parlé. Et j'adresse un salut très confraternel à mes confrères de La Vie, ci-devant catholique, qui viennent encore dans l'avant-dernier numéro de leur hebdomadaire, consacré 4 pages épouvantables au film de Mel Gibson, mais épouvantables. Et alors, dans le deuxième, il y a ce qu'on appelle chez nous un intertitre. C'est-à-dire un titre qui se détache dans le texte, quoi, qu'on voit en gros, et disant « Il est peu probable que le pape prenne parti dans la bataille de ce film. » Manque de peau, le pape a pris parti. Je trouve tout ça étonnamment. Bon, alors, il y a eu beaucoup de mauvais articles, ça continue dans la presse française, et puis beaucoup de bons articles. Alors, je tiens quand même à saluer les efforts que font un certain nombre de mes confrères. Je pense notamment à Dandrieux, qui a fait un très bon papier dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles. Je pense aussi au camarade Hubert, qui lui avait fait cet été un très bon papier dans Famille Chrétienne. Je pense aussi aux interviews. Moi, j'ai donné des interviews. Il y en a deux qui ont paru, l'une dans L'Homme Nouveau, le dernier numéro de L'Homme Nouveau, une autre dans le petit bulletin très bien fait, Le Baptistère, qui fait par des jeunes cathos traditionnalistes sympathiques. J'ai donné une interview à un dossier important qui va arriver dans le prochain numéro de Fidélitaire, donc là c'est plutôt Saint-Pédis. Alors, il y a du Saint-Pédis, du Saint-Pierre, du machin, tout ça, c'est bon. Et il y a aussi donné une interview, il y a vraiment de bons papiers qui sont en train de paraître. Il y a eu de bons papiers aussi dans Français d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu encore, il y a eu vraiment des bons papiers qui paraissent partout. On a l'impression que la mobilisation commence. Hein. Il a fallu que je touche pour que la mayonnaise prenne. Il a fallu vraiment touiller les jaunes, hein, je vous jure. Bon. Mais enfin, c'est en train de prendre. Alors voilà, donc, si vous voulez en savoir plus, et surtout faire pression, parce que si on n'est pas capable de faire un lobby, nous, pour ce film, il faut savoir que c'est les autres qui vont faire un lobby contre le film. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Bon, alors, faut se battre. Il faut toujours se bagarrer. Donc, ce que je suggère à nos amis auditeurs, c'est d'avoir la gentillesse de se rassembler autour de ma modeste personne, c'est-à-dire en fait autour de ce projet du film, pour qu'il puisse être distribué convenablement en France. Et j'ai donc créé, pour ce faire, une association qui s'appelle Pro, ouvrez les guillemets, Passio. J'insiste, parce que déjà, on m'a reproché que c'était une faute de latin. Bah oui, évidemment, je connais pas beaucoup le latin, mais je sais que Pro, c'est passionné. Mais là, c'est Pro, ouvrez les guillemets, Passio, fermez les guillemets. C'est-à-dire, c'est pour le film La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ par Mel Gibson. En gros, c'est ça que Pro Passio veut dire. Voilà. Donc, Pro Passio, c'est 22 rue Didot, Paris 14e. Donc, 22 rue Didot, Paris 14e. Je ne donne pas le téléphone. Vous me permettrez de ne pas le donner, parce que sans quoi je ne vais plus vivre, parce que c'est effrayant. Je donne par contre, si vous voulez, un courriel. C'est pratique, un courriel. Donc, c'est Pro Passio, en un seul mot, Pro Passio, @free2e.fr. Pro Passio, @free.fr. Voilà, donc les dernières nouvelles, mais il y en aura d'autres, hein, la vente des billets a commencé depuis 4 semaines aux États-Unis, pour les États-Unis et le Canada. La vente des billets a commencé, je ne vous dis pas. Je n'ai pas les chiffres, j'attends les chiffres, je les aurai malheureusement que lundi ou mardi prochain. On m'a promis de me les envoyer. Il y a déjà des centaines de milliers de tickets qui ont été achetés par avance. Voilà. Donc c'est une affaire c'est une affaire qui marche au sens pesetas. Voilà. Voilà pour la passion de Mel Gibson, ce que j'avais à en dire ce soir, donc avec ce soutien tout à fait non pas imprévu mais explicite donc du Saint-Père Jean-Paul II et de la plupart des cardinaux de la curie, enfin de tout l'appareil de la Sainte Mère Église qui se trouve à Rome. Voilà. Ma petite Jacqueline.
Non, j'ai un auditeur qui me demande si vous avez des contacts personnels avec Mel Gibson.
Ah non, pas du tout, je n'ai pas de contact personnel. Pourquoi voudriez-vous que j'ai des contacts personnels avec Mel Gibson? Non, non, moi je me suis intéressé à l'affaire du film. J'ai des relations évidemment avec l'ensemble des entreprises qui travaillent autour de Mel Gibson pour ce qui est de la communication vers la presse religieuse, etc. Mais je n'ai pas de contact personnel avec Mel Gibson. J'en aurais peut-être un jour, mais je vous l'ai dit que si tout marchait bien, si nous avons une association prudente, je vous garantis qu'il sera dans le studio un jour ici. En face de moi, et nous aurons, avec deux traducteurs assermentés, nous aurons une très bonne conversation là-dessus, ce que je souhaite de tout cœur.
Et puis alors, une petite parole.
Parole, de mauvais goût,
parce que c'est un auditeur qui n'était pas très content de vous avoir entendu dire que Jésus avait été mangé, même si c'est...
Oui, ça, tu l'as, c'est de la mandacation.
Voilà.
Bah oui, mais enfin, bah, il peut rien, mais enfin, c'est comme ça, ce qu'on appelle la manducation. La manducation, c'est la mastication, c'est manger. Hein. C'est manger, ingérer, la manducation. Bah oui, on consomme le Christ, oui, évidemment. On consomme... corps, sang, âme. Oui.
C'est
la personne des calvinistes ou luthériennes, évidemment, ils n'ont pas le sentiment de manger. Nous mangeons le corps du Christ. À la Sainte Communion, nous recevons le corps du Christ. Nous absorbons le corps du Christ. Voilà. Et il a été déposé, né enfant, le petit enfant Jésus qui va naître cette nuit, enfin symboliquement cette nuit, pour cette fête de Noël, il est déposé dans une mangeoire. Et je ne crois pas que ce soit par hasard que l'Écriture parle de mangeoire. Voilà. Et donc, enfin, entre la crèche et le Golgotha, il y a une unité totale, une unité parfaite. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous avez des questions à poser, monsieur David Foubert sur la Passion, ou monsieur François de Crécy, non? À part que François vient d'adhérer à l'association, là, spontanément, merci mon cher François.
Tardivement, mais enfin,
je ne serais pas venu pour rien. Et toujours ça de prix, comme disait ma concierge, oui.
Non, la question qui me vient à l'esprit, c'est la France, bien sûr.
Voilà, donc la France est...
On ne peut pas en dire grand-chose encore.
Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, la maison de production de Gibson a déjà pris, je pense, des contacts internationaux avec, pour la France, l'Espagne, l'Autriche, la Russie, je ne sais pas, enfin, tous les pays qui sont intéressés à recevoir le film, mais que pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Ce qui est certain, c'est que nous aurons des réticences, nous aurons des gens qui vont freiner. Alors, le seul moyen de lever ces freins, pour nous, c'est d'accélérer, c'est de montrer qu'il existe en France un marché. Voilà, tiens, faut parler comme le langage des producteurs. Il y a un marché pour ce film. Alors, messieurs les producteurs, faites votre travail et nous paierons de notre bel argent nos places de cinéma pour aller voir le film.
Et concrètement, vous allez organiser des manifestations?
Oui, des réunions, des manifestations. Nous n'en sommes pas encore à descendre dans la rue. Non, non, contrairement à certaines personnes de la communauté à New York qui sont descendues de la rue pour faire interdire le film, certains même voulaient qu'on le brûle. C'est vous dire si vraiment les choses sont peut-être arrivées à un point au mois de juillet.
Ça. Ah oui, à ce point-là.
Ah oui, au mois de juillet, une manifestation menée par des élus démocrates de... un député démocrate, plus deux membres du conseil municipal de New York, descendu dans la rue avec des calicots, enfin là, voilà. Enfin, c'est bon, Mel Gibson égale Hitler, si vous voulez, bon, etc. Enfin, des trucs sont tellement hallucinants que les bras vous en tombent au bout des genoux, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est comme ça. Alors, non, voilà donc ce qu'il faut. Il y a un journal interne, il y a une série de conférences que je fais pour un petit peu apporter de l'information, parce que l'information, elle circule mal. Il faut dire aussi que pas beaucoup de journalistes se sont donné la peine. Moi, je suis un journaliste monomaniaque, et d'autres thèmes à traiter, mais il a fallu quand même travailler beaucoup, beaucoup pour connaître tous les tenants et les aboutissants de cette affaire qui sont délicates, parce qu'il y a à la fois des problèmes de politique institutionnelle, de théologie, c'est compliqué. Vraiment, c'est une affaire très, très compliquée. Je crois être le seul en France à l'avoir suffisamment travaillé pour pouvoir en parler tranquillement et connaître tous les protagonistes de l'affaire, hein, de leur date de naissance, à ce qu'ils ont fait, je sais à peu près tout, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et puis ensuite, nous ferons des rassemblements à Paris, à Marseille, à Lyon, dans les grandes villes, et puis voilà, pour parler de la Passion.
Et du lobbying peut-être auprès des
distributeurs ? Lobbying auprès de la presse, oui. La presse évidemment, et puis auprès des distributeurs, pour qu'ils comprennent qu'il y a un mouvement qui existe. Et je mènerai certainement une opération une première opération de lobbying entre Noël, c'est-à-dire entre demain et le jour de l'an, avec les adhérents, leur demandant d'intervenir auprès d'un journal pour leur exprimer leur mécontentement. Voilà. Eh bien, nous avons traité cette affaire. Nous y reviendrons, parce qu'il y aura encore sans doute du nouveau la semaine prochaine, que vous m'aurez supporté encore pendant au moins une heure et demie la semaine prochaine, donc nous en reparlons. Alors là, c'est un grand plaisir de recevoir notre ami David Foubert, qui est... Vous n'êtes jamais venu encore chez moi, je vous ai reçu comme une fois, non?
Non, c'est la première fois que vous m'invitez.
Vous avez pas reçu déjà, nous, les épées? Non. Ah. Parce que c'est, ça fait que 3 ans, vous êtes dans la 3e année de parution, c'est quand même...
3e année.
Bon, oui. On peut dire, je suis quand même très, très, je suis un peu plus lent pour vous que pour la passion de Mel Gibson, quand même. Voilà. Alors, 3 ans, les épées, c'est un trimestriel qui s'affiche royaliste. Le numéro 10 vient de paraître,
il y a un mois.
Et le prochain numéro paraîtra au mois de février, sans doute, hein, oui. En gros, en février, qui sera donc le numéro 11, et j'aurai peut-être le bonheur de vous avoir de nouveau. Peut-être que je vais donner tout de suite avant d'oublier, mais enfin, vous me ferez repenser, vous avez quand même l'adresse des épées, c'est toujours très très utile, donc c'est 4 squares, pour une fois qu'un journal n'est pas logé dans une boîte postale, il faut quand même le signaler. Donc les épées, 4 squares de la côte Saint-Thibault, c'est joli, la côte Saint-Thibault, 92-270, Bois-Colombes. Voilà. Donc, 4 squares de la côte Saint-Thibault, 92-270, Bois-Colombes. Et puis après, on donnera le mail, mais enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous et vos nombreux, parce qu'il y a pas mal de monde qui travaille dedans, et puis des gens très bien, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette revue? On peut l'appeler revue ou...
Revue, oui, trimestrielle. Oui, c'est une revue qui progresse. Vous avez vu l'équipe qui devient qui s'étoffe au fur et à mesure des numéros. Les premiers numéros, on était un petit peu moins nombreux. Là, ça commence à prendre forme. Et puis, sur le nombre de pages, sur les rubriques, on essaie de...
Parler bien près du micro.
Oui. Donc ça prend forme. C'est peut-être pour ça aussi que les premiers numéros, vous les avez peut-être... Ils sont peut-être passés sous le coude.
Alors, peut-être que on les a pas envoyés non plus, c'est possible. Hein.
C'est mal fait.
Non, mais des fois, il y a des gens qui ont des préventions contre moi, comme je suis royaliste. Bon, les gens de royalisme n'envoient pas de journaux, c'est normal. Quoi. Bon,
oui. Non, non, aucune prévention. Donc, c'est une bonne petite équipe qui s'est bien structurée, et puis qui a pour ambition, en fait, de faire une revue royaliste, comme elle est annoncée, mais qui parle pas exclusivement du royalisme, qui parle pas exclusivement du roi. Qui part du
culture, civilisation, enfin c'est tout
voilà,
ça entre
qui,
tout
qui
ça.
Part, qui part du constat que c'est pas évident aujourd'hui pour tout le monde de comprendre ce que c'est que le roi. Tout le monde n'a pas eu des parents royalistes, moi le premier. Et donc il y a une démarche pédagogique à faire pour dire aujourd'hui, pour se confronter déjà à la réalité un petit peu avec des thèmes qui sont contemporains. Toute l'équipe est assez est jeune, c'est-à-dire que ce sont des universitaires pour la plupart entre 25 et 40 ans, donc
des jeunes, oui.
une bonne équipe.
Par rapport à moi, c'est des jeunes.
N'ayez aucun regret.
Oui, oui. Mais disons, c'est quoi? Ça vient de ces actions françaises? Ça vient, c'est quoi? Non, c'est alors, des Maurassiens.
C'est la petite équipe du départ part de l'action française. Et puis
on part ou on est parti? Parce qu'il y a eu tellement de scissions aussi dans la grande maison. Puis
non, on a comme un accord. Je pense c'était bon et pour la revue et pour la F qui désirait plus qu'on fasse partie de la maison. C'était aussi très bon pour la revue qu'on prenne l'indépendance. Donc ça part d'une équipe de Maurassiens. Maintenant elle est Maurassienne mais non exclusive. Il y a des gens même qui font partie de l'équipe qui sont pas royalistes. Le but c'est de donner un lieu d'expression.
Mais est-ce qu'il y a des royalistes qui ne sont pas maurassiens chez vous? C'est ça la question.
Oui, il y en a.
Il y en
ne
a.
Vous inquiétez pas.
Il y en a
aussi.
Il n'y a pas que de la pomme,
il y en a aussi. Et donc
je vois parce qu'on a des références, je vois qu'on a des références communes, parce que j'ai quand même lu et bon, j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs qui me rappelaient un film relativement célèbre que la télévision française a eu la bonne idée de projeter il y a quelques temps, que j'ai regardé alors que je l'ai déjà vu 24 fois, que j'ai le DVD, le VHS et tout, mais j'ai quand même regardé la télévision. Faut le faire comme, faut être bête
pour le plaisir,
pour le bonheur, voilà, petit bonheur.
Il faut pas passer à côté petit bonheur, non. Comme ça. Et puis, vous avez sûrement aussi vu le dossier dans le numéro sur René Fallet.
Oui.
Il n'y a pas de jugement.
Oui. J'aime bien. Alors, j'aime beaucoup le ton, parce qu'évidemment, c'est un ton... c'est pas du tout, comment dire, c'est pas une revue de parti ou un truc de doctrine un peu... Parce que c'est vrai qu'en matière de presse, de publication, il y a eu beaucoup de très belles initiatives qui sont venues plus ou moins du secteur maurassien au cours de ces 10 dernières années. Je pense à la revue Réaction, qui est une revue remarquable. Alors j'ai souvent invité nos amis qui animaient ça.
Il y a une partie de l'équipe.
Oui, j'ai reconnu des noms. Marcel Absa, c'était les gens qui étaient dans la précédente équipe. Il y a eu Vue de France aussi, qui était une tentative. Il y a beaucoup de tentatives très bonnes avec des gens de vraiment de qualité. Le problème, c'est que ça ne dure pas.
Bon, alors,
voilà, c'est, et je crois quand même que pour être crédible, il faut durer, quoi. Il y a vraiment un facteur temps qui est très important. Il faut durer. Or, vous êtes déjà au numéro 10, donc on peut dire que vous avez à peu près passé les maladies infantiles, quoi, logiquement.
Oui, ça, je pense qu'on les a dépassées. On fait tout pour bien structurer la revue et avancer progressivement. C'est pour ça que on lance pas tout de suite une pagination beaucoup plus importante.
Elle progresse progressivement.
C'est important.
Ça fait quand même
50, d'un autre côté, 50,
ça fait 58, 56, 56 pages.
56 hein, pages.
Donc, couverture quadrite ou bien jolie. Enfin, c'est beau, quoi. Regardez, c'était. Enfin, ça se voit en tout cas. Hein, cette espèce de piment rouge qui se termine par un crayon taillé, c'est quand même, fallait le trouver. Quoi. C'est
sur
joli,
le pamphlet,
quoi.
Oui.
C'est... Ouais, c'est sur le pamphlet, c'est bien. Oui, c'est une bonne idée. Joli, hein. Oui. C'est une bonne idée. Éloge du pamphlet. Aujourd'hui, il faut faire attention au pamphlet parce que on a quasiment.
Faut pas parler trop fort.
Faut plus rien dire, quoi. C'est. Mais enfin, on peut encore écrire un petit peu, quoi. Non, un bon sommaire, une belle présentation, une belle typographie, une belle mise en page. C'est de la belle ouvrage, quoi. C'est bien. Alors, comment c'est reçu?
C'est bien reçu. Les gens sont toujours un peu méfiants, en se disant encore une, justement un peu ce que vous venez de dire, encore une nouvelle revue. Qu'est-ce que ça vient faire encore? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Est-ce qu'elle s'exprime différemment? Oui, je le pense, parce que pour avoir fréquenté, pour avoir participé à un certain nombre de supports de presse et royalistes et autres, je pense qu'il manque une revue intellectuelle qui rassemble un certain nombre d'universitaires, de journalistes, de jeunes talents aussi, qu'on découvre que des générations successives d'Action française et autres découvrent régulièrement et puis qui se perdent un petit peu dans la nature. On découvre progressivement qu'il existe un nombre incalculable d'universitaires qui sont royalistes et qui ne s'expriment qu'occasionnellement, qui sortent des livres qui sont très intéressants. Il y a vraiment quelque chose à dire. Mais donc il faut quand même un lieu pour l'exprimer. Un des travers de la presse royaliste généralement constaté, c'est un petit peu
la polémique, pas au sens du pamphlet que vous dites, mais la polémique dynastique aussi a quand même beaucoup obscurci le débat sur le royalisme. Il est vrai que le royalisme n'étant pas, contrairement à des idéologies où les chefs, les caudillos, ou les dictateurs, ou les fureurs, ou les duces peuvent être interchangeables, dans le royalisme, non. Et s'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royalisme. Alors, évidemment, ça, on a tendance un petit peu à se bagarrer sur la.
Voilà, c'est ça. C'est une presse qui tourne un petit peu en rond, qui focalise un petit peu toujours sur les mêmes préoccupations, qui a peut-être du mal aussi à se renouveler et dans son personnel et dans ses préoccupations, dans les thèmes qu'elle aborde, et puis qui manque un peu de vie. Donc il y a des bonnes choses qui sont faites un petit peu partout. Il y a des bons supports, il y en a qui sont malheureusement qui tiennent pas. Là, je pense que nous on a une équipe qui est faite pour durer. C'est-à-dire qu'on a à la fois une équipe d'universitaires qui travaille sur le fond, sur les dossiers qu'on essaie de travailler, essayer d'aborder des thèmes qui sont transversaux. On a vu sur l'amour, on a vu sur l'indifférence, on a vu sur le langage. Donc ça, c'est des thèmes qu'on essaie de bien creuser, sur lesquels on interroge des spécialistes. Et puis on a à côté de ça une équipe de techniciens, de gens qui font dont le travail est qui travaillent dans la publicité, dont c'est le travail de faire la promotion d'un support, dont c'est le travail de recruter des abonnés, dont c'est le travail de maqueter un support. Donc je pense qu'on a une bonne équipe pour durer. Donc ça.
Une question qui me brûle un peu les lèvres, comme ce piment rouge qui apparaît dans la couverture du numéro 10, la belle couverture, c'est les épées. Alors ça renvoie quand même à un auteur. Non, je peux me tromper. Parce que...
Ah, pas du tout.
Non.
C'est d'inspiration nimiesque.
Oui, j'allais dire. C'est nimiesque.
Mais pas sans parti pris non plus excessif. On s'en inspire. Mais je pense que le titre est aussi évocateur de combats à faire, de combats à venir. Les plus belles armes sont intellectuelles. Donc je pense que là, on peut. C'est à la fois vu aussi comme un outil de combat, c'est-à-dire qu'on donne des matériaux pour réfléchir, on me donne des matériaux pour comprendre le monde aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de thèmes. Je pense qu'on répète un petit peu trop dans certains supports, et on oublie certains fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la construction européenne par exemple, la nation, c'est pas un a priori sur lequel il faut être capable de poser la question de la nation, de se dire aujourd'hui est-ce qu'il faut pas dépasser le cas national, est-ce qu'il faut rechercher des arguments d'aujourd'hui sur des thèmes fondamentaux comme celui-ci. Et puis il y a tout un tas de thèmes je vous l'ai dit, sur l'amour, sur d'autres thèmes. Donc ça c'est important.
Oui. Alors parce que dans la presse royaliste, on peut dire qu'il y a peut-être trois tendances, on peut dire à peu près. Enfin, je vais schématiser au maximum. Bon, il y a disons.
Non, il y a les épées et puis il y a les autres.
Ouais, non, mais essayons d'avancer. l'épée et le bouclier, c'est ça. Il y a disons ce qui est strictement d'inspiration maurrassien. On peut dire, bon, la doctrine maurrassienne. Mm-hmm. Il y a donc une presse et des revues ou des ils sont strictement maurrassiens. Moi, j'ai tendance à défendre Maurras quand il est attaqué, mais quand on parle trop de Maurras, j'ai peut-être tendance parfois à me fatiguer un petit peu. Parce que quand même, c'est pas Moïse qui descend du Sinaï avec l'état de la loi. Hein. Bon. Et quand même, bon, le maurrassisme, Maurras, personnage, évidemment, à comparer avec les nains de jardin qu'on voit aujourd'hui s'agiter dans les journaux de la grosse presse, à la télévision et partout, je veux dire, ce type est un géant, quoi. C'est, bon, Gargamel, bon. Mais d'un autre côté, c'est aussi, il y a dans Maurras une dimension quand même doctrine du nationalisme du 19e siècle, au début du 20e, qui est parfois un peu un carcan, je crois qu'il faut un petit peu en sortir. Alors, il y a l'autre, j'aurais une autre tradition à laquelle je me rattacherais moi plus volontiers, qui est plutôt celle de la contre-révolution catholique, en gros, hein, ça aussi, il y a des organes de presse, il y a des courants, c'est-à-dire, on se sent très bien avec le Christ-Roi, enfin, on se sent très bien, vous voyez, dans ce que je veux dire, bon, il y a ça, et puis alors, il y a un autre courant royaliste, difficile à classer, et vous, j'arrive pas bien encore à voir où est-ce que vous êtes, peut-être que vous êtes d'ailleurs un pont entre tout ça, d'ailleurs, c'est pas impossible, comme disait...
On n'est pas dans les deux premières, en tout cas.
Bon, voilà. Alors, il y a une autre dimension, qui est une dimension, je dirais, un royaliste plus culturel qui voudrait faire un peu son aggiornamento en disant bon, il faut en finir avec disons un peu le moral. Vous m'arrêtez, hein, je sais ce que je
veux dire pour l'instant.
Bon, avec le maurrassisme qui doit être plus considéré comme un excitant à la réflexion politique, idéologique, philosophique,
oui,
plutôt que comme une espèce de vulgate qu'on ressasse indépendamment, que le catholicisme c'est très bien, mais il ne s'exprime pas uniquement dans la contre-révolution, donc, etc. Il faut donc trouver une autre voie. Donc je dirais que vous faites partie de ces laborantins du royalisme par rapport aux maîtres d'officine que les autres sont, en quelque sorte. Quand je dis officine, c'est pas au sens où l'entend Jean Ferré. Je parle de l'officine, la préparation magistrale que les pharmaciens patentés ont le droit de faire. Donc, même moi, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse toujours de discuter, parce que moi, je suis un petit peu comme le pape. Le pape a eu une très belle formule, il y a 15 jours, 3 semaines, à propos du mur qui est en train d'être construit pour protéger Israël. Il a dit, ce dont le Moyen-Orient et ce dont les hommes ont besoin, ce n'est pas de murs, mais de ponts. Et j'ai trouvé cette phrase vraie, je la redis tout le temps, parce qu'elle est magnifique. Oui, c'est pas des murs qu'il faut élever, c'est des ponts qu'il faut jeter les uns vers les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout. Moi, je suis là pour faire de la formation. Je veux dire, si je devais parler que de ma sous-officine, machin truc, je veux dire, il y a longtemps que les gens auraient fermé les robinets de la TSF pour écouter ou lire autre chose. Par contre, bon, moi, c'est clair, mon courant, c'est plutôt ça, c'est plutôt de la contribution catholique. Bon. Vous, c'est autre chose, quoi. Et je le sentais déjà dans pas mal de vos collaborateurs que je connais, que j'apprécie beaucoup, parce que c'était des gens de valeur, quoi, avec qui c'est agréable de discuter, boire un coup et bon, de
oui, ils aiment bien ça.
Ça au moins c'est un point commun, parce qu'il y a aussi cette quatrième tendance qui est quand même extrêmement banquet, voilà.
Le dossier René Fallet n'est pas là par hasard.
Très beau dossier. Donc c'est ça, vous êtes plutôt de, je dirais pas des gens en recherche, parce que c'est tellement nul de dire des trucs comme ça, mais plutôt vous êtes peut-être de laboratoire,
curieux.
Voilà, des
curieux, des curieux. Oui, un laboratoire.
C'est... Donc qu'est-ce qui vous... Alors ça c'est un truc, il y a une autre vue aussi qui était au départ animée par des royalistes, et qui était d'ailleurs au départ plutôt légitimiste, puis après c'est un petit peu tout ça, c'est un peu... Ouais, c'est des gens d'immédiatement.
Immédiatement.
Voilà, après ça rentre, le danger de ça c'est que comme on veut se faire reconnaître, on risque d'être un peu mangé par l'institution qui est autour de nous, évidemment, et on risque de perdre un petit peu son âme, quoi.
Là, nous, ça reste quand même une revue politique. C'est-à-dire que les dossiers sont des dossiers politiques, ce qu'a rarement fait immédiatement. Ils sont très bien et très vite positionnés sur le secteur culturel, ouais, avec beaucoup, ouais, de lectures, avec des nouvelles. Ils l'ont fait très bien, ils ont fait un très bon travail. Nous, c'est quand même différent. C'est-à-dire que même si on a une grosse partie de critique littéraire, qui, à mon avis, est importante, parce que c'est aussi un moyen de rentrer dans les débats, de rentrer dans les préoccupations d'aujourd'hui sur les... je voyais cette semaine, là, dans Rivarol, où il critiquait la revue en disant... c'est bien, mais c'est un petit peu trop, c'est pas trop ardu, mais il y a trop de notes de lecture, trop universitaires. J'ai pris ça comme un compliment, parce que les notes de lecture, c'est vraiment un moyen pour discuter, pour créer des ponts, justement, avec, oui, avec d'autres auteurs, sur des débats. Et la revue est vraiment un positionnement politique, c'est-à-dire qu'on a des rubriques actualité, on a des rubriques politiques, et les dossiers sont vraiment politiques, parce que même le dossier sur l'amour, c'est un dossier politique. Pour voir aujourd'hui.
Mais il n'est pas dans ce numéro-là.
Non, il n'est pas dans.
Ah bon, non,
dans
parce que ben, j'aurais regardé tout de suite le dossier.
Le dossier, justement, de ce numéro-ci, c'est sur l'éducation du souverain. Donc, oui, en monarchie, oui, en démocratie, pour faire les comparatifs.
Ouais, c'est intéressant.
Pour voir un petit peu.
Bon, on peut dire un peu le sommaire, hein, parce que l'actualité, bon, c'est souverainisme, vous avez dit souverainisme. Alors, je ne sais pas quel est. Là, j'avoue, je n'ai pas lu le papier de Barthélémy sur
c'est
le.
Sur, c'est pour répondre un petit peu aux personnes qui disent que Raffarin serait souverainiste et aurait une politique souverainiste auprès du Parlement européen. Donc ça répond un petit peu.
Attends, je vais voir les acouphènes, j'ai pas bien compris là. Oui, Raffarin souverainiste, bon d'accord, ok. Non, moi je pensais, non, c'est le souverainisme, c'est la notion même de souverainisme que. Bon, j'en ai suffisamment discuté avec l'ami Paul-Marie Couteau pour ne pas en revenir ici, mais on pourra d'ailleurs discuter de ça jusqu'à plus soif, mais bon, il y a quelque chose dans le souverainisme qui me gêne. Pas le mot, hein, je veux dire, mais cette espèce d'union sacrée, de refaire encore l'union sacrée, à mon avis, c'est... Enfin bon, passons. Alors, politique, démocratie en Amérique, c'est un sujet très intéressant, puisqu'on voit d'ailleurs M. Schwarzenegger qui est en train de montrer ses biscottos devant deux petites mémères, c'est vraiment, c'est assez rigolo, c'est avant qu'il soit gouverneur. Hein.
Bon, oui, juste avant.
Voilà. Bien que son papa fût comme un militant national-socialiste, membre du NSDAP, National-Socialiste du Sud de Char, Bataille par Taille, et en même temps membre des SA, des sections d'assaut, le papa, il est tout à fait accepté par la communauté aux États-Unis, oui. Avec Big Gibson, non, mais non. Lui, oui. Parce que, voilà, non, parce qu'il est très généreux avec. Voilà. Alors voilà, bon, spiritualité, alors vous parlez un peu. Alors bon, j'ai vu que. Bon, c'est pas très catho-minded, quoi. C'est pas orienté catho, quand même. Hein.
Non, on a une rubrique spiritualité qui va parler un petit peu de sur ce numéro-là.
C'est la vocation du théâtre chrétien.
Voilà,
le débat entre Georges et Génère
et le bal.
Très bien d'ailleurs.
C'est une rubrique assez ouverte aussi celle-ci, qui se propose un petit peu d'explorer aujourd'hui toutes les. D'abord chez les catholiques, de voir un petit peu dans tous les pays. Dans les numéros, c'est sur le catholicisme au Mexique. Il y aura des prochains articles sur les catholiques en Orient, sur tout un tas de choses. Mais pas exclusivement. La revue n'est pas exclusivement catholique.
Mais ça... Non, n'ayez pas peur, c'est parce que Jacqueline, vu que nous avons... Il y a quelqu'un pour prendre les messages par vous, ma petite Jacqueline. Ben non, voilà, ce soir, il n'y a personne. Donc, s'il vous plaît, les messages doucement, écoutez-nous. Envoyez-nous des lettres, mais évitez les messages, parce que Jacqueline ne fait que des allers-retours. Elle va traverser. C'est effrayant, vous allez faire votre gymnastique pour l'année, là.
Ah, mais oui.
Hein, vous êtes en train de... Les derniers jours qui vous restent, là, ça va être terrible. Hein. Voilà, donc, je redonne encore... j'ai beaucoup aimé le papier Le Monde comme il ne va pas, Paris, l'autre ville rose de François.
De François.
Je crois que je connais François.
Oui, semble, oui.
C'est son nom en plus. Votre dossier sur l'éducation souveraine qui est très intéressant. Bon, le cinéma, bande dessinée, notes de lecture, c'est très bien. Il y a 56 pages. Et je trouve ça.
Et puis, beaucoup de projets, évidemment.
Ouais.
Donc là, on est sur un parti pris, justement, de rester trimestriel. C'est pas une formule qui serait limitée par nos moyens financiers en disant on ne peut sortir que 4 millions par an. Non, c'est vraiment un parti pris. Je pense que pour une revue de réflexion comme on se veut l'être, c'est important que les rédacteurs qui sont bénévoles aient le temps de travailler, le temps de réfléchir, ouais, d'écrire des articles un petit peu de.
Il faudra qu'un jour ils soient plus bénévoles, hein, si vous voulez que ça continue.
Hein. On y travaille.
Parce qu'on fait que du bénévolat. Ça fait quand même 200 ans qu'on fait du bénévolat, mais je veux dire, bon, les résultats sont quand même pas toujours à la hauteur. De nos espérances. Oui, ma petite Jacqueline, si c'est des questions qui ont à faire avec ce que dit notre ami David.
Oui, on nous demande si la revue Les Épées
si elle est liée à la revue immédiatement.
Bah, on vient d'en parler, on vient justement. Ah, alors, bah, oui, mais c'est pas pour vous, c'est pas de faute, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'effet de retard, comme les médicaments effet de retard. Donc on parle d'un sujet, tant que les gens notent, appellent, trouvent la ligne, quelqu'un note, on arrive, ça y est, on est vrai. Non, non, c'est des choses différentes. C'est différent. La revue immédiatement a eu de très très bons premiers numéros, je vous vraiment très très bons. Mais après, ils sont devenus un petit peu trop dans, je trouve, un peu trop dans le système. Et bon,
oui, c'est ce que dit un auditeur qui se plaint d'un article sur Jean-Yann. Et qui se
mais
demandait
ça, c'est pas dans les épées. Si. Dans les épées, ben pourquoi, qu'est-ce qu'il a contre Jean-Yann?
Ben non, mais il trouvait que c'était pas tellement.
C'était un anarchiste de droite, Jean-Yann. Donc,
ouais. On a fait un mini dossier sur humour et politique. Donc,
c'est
André Boutan qui nous a fait un entretien sur. Sur Jean-Yann, qu'il a personnellement connu, donc c'était intéressant.
La seule bêtise qu'il ait faite, Jean-Yann, c'est de nous quitter si tôt, quoi.
Voilà.
Mais il aurait fait des trucs, il aurait pu faire des choses extrêmement intéressantes, Jean-Yann. Oui, d'abord, il a fait des choses extrêmement intéressantes. Oui, c'est un curieux personnage. Pas vraiment de chez nous, mais pas. Bon.
Non,
une espèce d'anarchiste de droite.
Voilà, et puis, bon, l'humour dépasse complètement les catégories politiques.
Très bel humour. Encore d'autres messages, notre petite Jacquinette.
Là, c'est sur le film.
On fera ça après, dans la deuxième partie. Là, on va quand même laisser souffler les gens.
Je vais faire plaisir à une auditrice qui n'est pas contente qu'on parle trop du film.
Ah, bah oui, mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais il faut pas dire je veux pas qu'on parle du film. Il faut dire pourquoi je ne veux pas qu'on parle du film. Alors là,
que le débat.
Voilà, il y a un débat sur le film.
Oui, elle pense que vous en parlez à chaque fois que vous venez pour l'émission.
Je suis seul à en parler, au moins. Et puis quand le film va sortir, qu'il va y avoir des millions de spectateurs qui vont faire la queue pendant des. Vous avez prévenu. Alors quand même, c'est invraisemblable, ça. Alors on va redonner quand même le téléphone des épées. Le téléphone, l'adresse. Alors, parce que le téléphone, on est mort. Hein. Alors, 4 square de la côte Saint-Thibault. 4 square de la côte, une côte avec un accent circonflexe, un chapeau, côte Saint-Thibault. 92 270 à Bois-Colombes. Il y a un courriel auquel vous pouvez aussi demander des renseignements, demander des spécimens. Bon, on va peut-être nous donner un petit cadeau de Noël. On va voir comment on va faire avec monsieur le directeur David Foubert. C'est lesepées@lesepees.com. Alors les épées, c'est compliqué parce que c'est lesepees@lesepees.com. Il n'y a pas l'accent. Donc c'est en un seul mot les épées, mais on met pas l'accent. Donc c'est
et pas d'espace.
lesepees@lesepees.com. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que comme je dis, Notre-Dame de Croix-Turteuf, parce qu'il y a pas de, on peut pas mettre d'accent pour l'instant. Ça va venir, il paraît. Mais pour l'instant, on peut pas mettre d'accent. Quoi, ça vous fait rire, Jacqueline?
Non, ça me fait pas rire du tout.
Ah bon, voilà. Donc alors c'est les, vous écrivez les épées. Vous écrivez les épées en un seul mot, mais vous ne mettez pas d'accent.
Voilà. Ni d'espace.
L'arrobas, le petit machin là. lesepees@nouveau.com. Vous avez un site internet ou pas, non?
Il est en cours.
En cours.
Oui.
Très bien. Alors, on peut donner quand même les tarifs d'abonnement pour votre publication. Moi,
on a un abonnement à 18 euros.
Alors, c'est pas cher. 18 euros
non,
pour 4 numéros.
Bah oui.
Ça fait quoi? Ça fait 4 numéros 50. 4,50 € le numéro.
Oui, c'est
ça fait 25 francs.
On se demande même comment on arrive à vivre.
Bah, je trouve que vous êtes pas cher du tout.
Bah non, c'est.
Alors, mais où est-ce que c'est marqué les prix? Parce que je vois pas les prix moi là-dessus. Là. C'est marqué sur la couverture. C'est 5 € le numéro, mais quand on s'abonne, c'est moins 28 €. 28 euros. Il y a un bulletin quelque part dans ce numéro, j'ai pas vu. Hein.
Oui.
Très honnêtement, mais je l'ai pas. J'ai peut-être mal regardé, mais ça j'ai
page
pas
43.
Vu. Ah, page 43. Donc alors, on va vous donner les tarifs. Voilà, page 43. Abonnez-vous. Rabonnez-vous, qui disait.
Oui, oui.
L'abonnement normal est à 18 euros. Alors, c'est pour 4 numéros. Et c'est une publication très rigolote, parce qu'il y a même un abonnement de structure à 30 euros. Alors, c'est quoi l'abonnement de structure?
L'abonnement de structure, c'est pour les associations, pour les mairies, les bibliothèques, où là, justement, les numéros tournent beaucoup plus. Donc
un peu, c'est un peu plus cher.
Voilà.
Ah, mais j'ai cru. D'accord.
Quand il y a 200 personnes qui vont lire le numéro, forcément.
Bon, d'accord. Alors, si vous voulez vous abonner, donc c'est 18 euros, mais vous nous faites quelque chose pour les abonnés de. Les adhérents de Radio Courtoisie, vous leur proposez quoi? D'avoir un numéro contre une plaque de timbre ou. Comment on peut faire un numéro spécimen.
Un numéro gratuit, puis on peut faire.
Un numéro gratuit. Alors, il y aura un numéro gratuit à la condition que vous envoyez quelques timbres, de préférence non affranchis, ou alors le Black Penny. à adresser à Les Épées, 4 square de la côte Saint-Thibault, 4 square de la côte Saint-Thibault, 92 270.
Bois-Colombes.
92 270 Bois-Colombes. Alors, vous envoyez une petite carte de visite. Merci de me faire parvenir un spécimen de.
En se recommandant de Daniel.
En se recommandant de Radio Courtoisie, c'est pas plus mal. Rajoutez toujours, hein, on le dit toujours, parce que, bon, tant que les euros ne poussent pas sur les arbres, même pas sur les sapins de Noël, on est obligé de demander de tendre la main. Le jour où ça poussera, je serai pas le dernier à la cueillette, hein, ça je peux vous garantir. Hein. Mais pour l'instant, les euros, malheureusement, les dollars non plus, enfin, rien ne pousse sur les arbres. Voilà. Donc, il faut toujours aider quand on demande un spécimen. Ça coûte cher, parce que le journal a coûté quelque chose à fabriquer. Hein. C'est pas un produit gratuit. Vous n'êtes pas subventionné encore par le ministère de la Culture, je pense, non ?
Non.
Non ?
Non.
Bah, c'est pas pour tout de suite, alors. Mais prévoyez ça quand même.
On prépare le dossier, là.
Oui, alors, on va reprendre déjà le pouvoir, et oui, puis après, on vous subventionnera. Voilà. Donc, mettez quelques timbres poste, des petits timbres à... des petits timbres.
Des boîtes de chocolat.
Des trucs, c'est... voilà.
La rédaction aime bien. Les chocolats.
La choucroute aussi, enfin, évidemment, parce qu'ils sont jeunes, ils sont un peu maigres, donc il faut quand même qu'ils se.
Comme ça, on fera un dossier sur les spécialités régionales.
Les spécialités régionales, voilà. Bonne idée. Donc, alors, les épées, 18 euros pour ceux qui veulent quand même tenter le coup. Pour 18 euros, je pense que ça ne fait pas un très, très, très cher. Sinon, on peut avoir un spécimen gratuitement, mais mettez quelques timbres quand même. Donc, les épées, 4 squares de la côte Saint-Thibault, 4 squares de la côte Saint-Thibault, 92 270, Bois-Colombes, France. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser vous en aller. Alors, faites-moi la promesse de ne pas essayer d'ouvrir les vitres ce soir, parce que vous savez que c'est là, la nuit de Noël, la nuit du 31 janvier, c'est là où, dans les services d'urgence, qui sont très mal tenus maintenant, arrivent le plus de gens qui se sont absolument transpercés les mains. Les gens ne savent pas. Ils ouvrent les vitres une fois par an. C'est évidemment la nuit de Noël ou la nuit du 31 janvier, là où il y a le moins de monde dans les services d'urgence, et crac, voilà. Il faut faire très attention.
Bon, je me contenterai du foie gras, ce sera moins
dangereux. Voilà, foie gras, enfin, et puis l'ouvrir avec bien comme il faut. Alors, on va vous laisser partir pour votre réveillon en famille. On vous souhaite donc un très, très joyeux Noël. Et puis, tous nos voeux déjà par avance pour la revue, pour son succès. Puis, vous reviendrez nous voir l'année prochaine,
oui,
en 2024, quand le numéro 11 sortira.
D'accord. Que puis, je vous ramènerai quelques spécialités régionales qu'on aura reçues.
Avec infiniment de... Oui, mais là, par contre, uniquement de la conserve. Oui, parce que d'ici le mois de février, quand même, on risque d'avoir une intoxication alimentaire maousse. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir, David.
Merci à vous, et puis Foubert, à bientôt. Alors.
Et puis donc, à très bientôt. Alors, nous allons incessamment avoir un autre correspondant au téléphone, mais avant, je souhaitais que nous passions un tout petit extrait d'un CD, d'un disque compact qui vient toujours du même disque compact, Les plus beaux textes à la Vierge Marie. Là, il s'agit d'un poème de Charles d'Orléans. Qui fut un prince capétien de première classe, grand poète en même temps, et à cause du sujet que nous allons traiter maintenant, j'ai souhaité prendre ce très beau poème qui est une balade à la paix.
Charles d'Orléans, balade à la paix.
Priez pour paix, douce Vierge Marie, reine des cieux et du monde maîtresse. Faites prier, par votre courtoisie, saints et saintes, et prenez votre adresse vers votre fils, requérant sa hautesse, qu'il lui plaise son peuple regarder, que de son sang a voulu racheter, en déboutant guerre qui tout dévoie. De prière, ne vous veuillez lasser. Priez pour paix, le vrai trésor de joie.
Priez, prélats et gens de sainte vie. Religieux, ne dormez en paresse. Priez, maîtres, et tous, suivant clergy. Car par guerre, faut que l'étude cesse. Moutiers détruits sont, sans qu'on les redresse. Le service de Dieu vous faut laisser, et ne pouvez en repos demeurer. Priez si fort que bientôt vous oie. L'Église veut ce à vous ordonner. Priez pour paix. Le vrai trésor de joie.
Priez, peuple qui souffrait tyrannie, car vos seigneurs sont en telle faiblesse qu'ils ne peuvent vous garder par maistrie ni vous aider en votre grande détresse. Loyaux marchands, la selle bien vous blesse fort sur le dos. Chacun vous vient presser et ne pouvez marchandise mener, car vous n'avez sûr passage ni voie et main péril vous convient-il passer. Priez pour paix, le vrai trésor de joie.
Voilà, c'était donc Charles d'Orléans, « Priez pour paix, le vrai trésor de joie ». C'est une très belle formule qui revient dans cette poésie. Et, bah, la paix, évidemment, il y a des zones dans le monde qui ne sont pas en paix. Une en particulier qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celle du Moyen-Orient. Nous tient beaucoup à cœur parce que c'est aussi la Terre Sainte. Et j'ai souhaité ce soir m'en entretenir avec une amie journaliste, Valérie Rollin, qui est malheureusement pas à Paris, mais qui doit nous entendre en principe de l'endroit où elle se trouve. Elle est en Normandie, on peut le dire d'ailleurs. On peut dire, Valérie, que vous êtes en Normandie?
Vous pouvez dire que je suis en Normandie.
Vous êtes en... Très bien. Quel temps avez-vous en Normandie?
Écoutez, il fait un petit peu gris, un petit peu pluvieux, mais ça va quand même bien.
Et c'est doux quand même.
Hein. Et c'est doux quand même.
Bon, donc, alors, Noël au balcon, pas cotisant, c'est ça?
Écoutez, il paraît. C'est ce qu'on dit en tout cas.
Alors, j'ai un petit retour désagréable dans mes oreillettes. C'est pas les oreillettes. Nous, on a quasiment le casque de guerre. Alors, le casque lourd, là, on aurait les oreillettes, ce serait mieux. Là, c'est le casque lourd qu'on a sur la tête. Bon. Alors, Valérie, vous êtes journaliste.
Eh oui, je suis journaliste.
Vous êtes allée plusieurs fois au Moyen-Orient.
Je vais très souvent au Moyen-Orient. Et là, je rentre d'un périple de 2 mois entre le Liban, la Syrie, l'Irak et Israël et la Palestine. Et en entendant votre très beau texte, j'ai envie de vous dire, eh ben, priez pour Bethléem.
Oui, priez pour Bethléem. Alors le texte n'est pas de moi, mais je l'ai choisi intentionnellement, sachant que vous alliez venir nous parler, parce que j'ai trouvé ce texte admirable. Et c'est pourtant un texte qui remonte déjà à quelques siècles, mais cela montre que l'homme ne change pas tant que certains idéologues le pensent. La nature humaine ne le change peu. Donc priez pour paix, le vrai trésor de joie dans cette région du monde qui est malheureusement une région de guerre et de haine. Alors, nous ne pouvons pas parler de tout, évidemment, puisque le temps nous est mesuré, Valérie, et ça me fera très très plaisir de vous réinviter dans une prochaine émission, mais peut-être, compte tenu de la journée particulière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est le 24 décembre, pour nos auditeurs qui nous écoutent en direct, pour ceux qui nous écouteront demain en diffusion, nous serons déjà le 25 décembre, donc nous sommes dans la veillée d'un événement tout à fait prodigieux qui s'est passé quelque part sur cette terre du Moyen-Orient, aujourd'hui dévastée par la haine et la guerre, dans un tout petit village qui est Bethléem. Et vous étiez allé il y a pas très longtemps à Bethléem.
Je suis allée plusieurs fois à Bethléem, et là j'ai reconnu que cette année j'ai eu un choc parce que la géographie a été considérablement modifiée par la construction de ce fameux mur dont on parle. Je pense que vos auditeurs
en... Oui, nous en avons parlé tout à l'heure, et nous ont même donné, je l'ai donné tout à l'heure aux auditeurs, cette citation du pape qui m'a moi beaucoup interloqué, disant ce dont cette région a besoin, c'est pas de murs mais de ponts.
Oui.
Je trouvais ça très beau.
Oui. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est une ville qui, comme vous le savez, d'un point de vue historique, il y a eu une deuxième intifada, c'est-à-dire qu'il y a eu une deuxième petite guerre. Quand je parle de petite guerre, c'est une litote. Et Bethléem a été... Il y a eu quasiment un siège militaire qui a duré plus de 39 jours, entre avril et mai 2002, et puis après il y a eu le couvre-feu. Et puis en ce moment, ils sont en train de construire une sorte d'autoroute et carrément un mur, de couper Bethléem en deux.
Okay.
Et Bethléem a donc est dans un état très triste. Alors on avait connu le décembre 99, on avait illuminé Bethléem, on avait ouvert les festivités du jubilé. Puis il y avait eu le voyage de Jean-Paul II en mars 2000,
oui.
Donc on pensait que la paix allait s'installer un petit peu. Et puis là, on est retombé dans un état terrible, avec des conséquences surtout qui sont terribles. C'est que ce mur a comme conséquence le fait de créer un chômage terrible. Et puis parce que, comme vous le savez, Bethléem vit quoi, surtout du
tourisme.
Du tourisme, oui, bien sûr, des pèlerinages qui sont quasiment arrêtés. Il y a des chiffres éloquents sur la question que je vous donnerai si ça vous intéresse.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Mais donc, du coup, bon, il n'y a plus de pèlerins, les hôtels ne tournent plus, et les Palestiniens eux-mêmes, enfin, les habitants de Bethléem, ne peuvent plus aller travailler du tout en dehors de chez eux à cause de ce mur.
Ouais. C'est effrayant. Quelle est la situation? Alors, Évidemment, il ne s'agit pas de faire une émission pro-palestinienne, parce qu'on va encore nous accuser. Vous savez que nous avons beaucoup d'auditeurs, nous avons des bons auditeurs à Radio Courtoisie, puis certains qui sont quand même des malfaisants. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui nous écoutent, qui nous épient, qui voudraient bien nous. Non, il ne s'agit pas de faire de la. Il faut dire la vérité. Moi, je crois que la vérité est absolument nécessaire.
Oui, attends, il s'agit d'abord de reconnaître que les poseurs de bombes, quels qu'ils soient, et vous me passerez l'expression, sont des salauds. Ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais la seule chose qui est terrible à l'heure actuelle, c'est qu'on a l'impression que, si vous voulez, ça va exacerber ce sentiment chez des jeunes Palestiniens notamment. Oui. Mais il ne s'agit pas du tout de tomber dans, surtout qu'on ne nous fasse pas dire que les poseurs de bombes sont des gens bien. Enfin, ça je le pense pas. Mais j'ai envie de vous dire qu'on peut être un chrétien salaud, un juif salaud et un musulman salaud. Oui. Voilà.
Il est vrai que ceux qui souffrent aujourd'hui de ces bombes qui sont posées par d'autres ont été ceux qui les ont posées eux-mêmes, ou dont les parents les ont posées eux-mêmes, parce que malheureusement, cette région du monde est quand même une région où la haine semble vraiment la règle de base dans les relations humaines. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Ce matin encore, j'entendais à la radio que il y avait eu deux soldats israéliens de tués, je ne sais plus, du côté de Gaza ou je ne sais pas où, qu'immédiatement il y avait une réaction de l'armée israélienne, et il y avait eu 6 Palestiniens de tués. Donc on voit très bien que cette affaire ne saurait pas se terminer. Enfin, on ne voit pas comment ça peut se terminer. Pendant ce temps-là, ce sont les populations civiles, d'un côté comme d'autre, qui souffrent de cet état de fait.
C'est ça qui est terrible, et il faut, je crois, en plus particulièrement peut-être une veille de Noël, mentionner le fait qu'il y ait des gens de bonne volonté de part et d'autre. Il ne s'agit pas de dire que, encore une fois, les uns sont bons et les autres sont mauvais. La vie n'est pas comme ça, hélas, ou peut-être tant mieux. Donc il y a quand même des espoirs, il y a quand même des tas de gens qui font des choses formidables, notamment à Bethléem. Je pense à la crèche qui existe, je pense à l'hôpital qui est géré par l'Ordre de Malte, je pense à Raoul Folraud.
Oui, l'association Raoul Folraud.
Voilà, qui, contrairement, je me permets de les mentionner particulièrement parce que, en général, le public a tendance à penser que Raoul Folraud ne s'occupe que de lèpre.
Que de lèpre.
Et c'est faux. Et tout au cours de ce périple au Moyen-Orient, même si on revient bien sûr sur Bethléem, j'ai été très frappée par l'aide au développement qu'ils apportaient aux populations dans tout le Moyen-Orient. Donc je les mentionne particulièrement.
Et vous avez raison, voilà. Vous avez bien raison de le faire, parce qu'ils font du bon travail.
Ils font du bon travail, mais c'est vrai que à vue humaine, encore une fois, c'est assez terrible de voir une ville qui était vraiment ressortie d'un chaos terrible et qui est en train un petit peu d'y replonger. Alors, je vous parlais de chiffres, vous voyez, en ce temps de Noël, c'est intéressant. Il y avait un confrère du Figaro ce matin qui faisait allusion au fait que les pèlerinages reprenaient. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, mais c'est Noël aussi chez moi.
C'est normal, c'est normal.
Voilà. Alors, je vous donne un exemple sur de pèlerinage. Il y avait entre 65 000 et 70 000 pèlerins en 2001. Enfin, en temps normal, pardon. En temps normal... Attendez, je vais faire un petit peu de silence autour de moi.
Oui, je vous en prie.
Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Donc, en temps normal...
Un peu d'autorité, Noël ne permet pas tout.
Et oui, mais il n'y a pas que les miens. J'ai des invités aussi. Donc, je vous disais qu'en temps normal, la grotte des... ce qu'on appelle la grotte des pasteurs ou la grotte de la nativité...
Oui.
Il y avait entre 65 000 et 70 000 pèlerins par jour.
Mmh.
En 2001, le chiffre était tombé à 3 000.
Mon Dieu.
Vous voyez, c'est déjà pour dire. Et en 2002, il y a eu seulement 125 pèlerins.
Mon Dieu.
Donc c'est quand même terrible. C'est pour ça que les diocèses français ont décidé de relancer les pèlerinages et que les gens essayent de partir. Mais c'est difficile, c'est compliqué, et voilà. Et je crois qu'il faut le faire.
Alors bon, c'est compliqué. La situation des Palestiniens, vous disiez tout à l'heure, par exemple, notamment Bethléem. Bon, Bethléem est quasiment coupé. Il faut voir que dans ce qu'on appelle les implantations palestiniennes, ce qui est, je sais pas, c'est pas un état, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, il y a pas de continuité territoriale. Ce sont des petits bouts là, une petite bande ici, un petit. C'est invraisemblable. Donc ça veut dire que pour aller de Palestine en Palestine, enfin, ce qui est reconnu comme étant la Palestine, il faut quasiment passer comment dire de nombreux barrages de policiers israéliens. Comment ça se passe?
Si vous voulez, c'est ça qui est assez compliqué et qui a beaucoup changé depuis quelques années. C'est que si vous voulez, avant vous aviez ça, c'est aussi, ça fait partie de l'imaginaire. On a l'impression qu'il y a des petites maisons qui se construisent comme ça, mais ce sont pas des petites maisons. Les Israéliens bâtissent des villes.
Des villes entières. Oui, les colonies de peuplement, ce sont des villes entières.
C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas ma petite cabane. Ça, c'est faux. Ce sont des villes entières de béton. Ce sont le plus souvent des juifs qui viennent de l'Est et qu'on enferme un petit peu malgré eux, en leur disant que de l'autre côté, ce sont que des terroristes. Oui. Même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup, encore une fois, soyons prudents et mesurés sur ces affaires-là. Mais quand vous parlez de Bethléem est en ce moment complètement encerclée par les colonies juives de Gilo, de Archilo, de Aroma. Ce sont des îles entières qui sont autour. Et le problème, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas passer. Ils ont coupé les champs. Ils ont pris les terrains, ça, c'est quand même quelque chose qui est dénoncé.
Oui, c'est officiellement, c'est dénoncé. Oui.
Et ils ont coupé les champs d'oliviers. Ça, c'est aussi terrible parce que c'était l'autre ressource via le tourisme. C'était le travail du bois et de l'olivier, enfin de l'olivier, donc du bois et de l'olivier.
Puis en plus, l'olivier, ça pousse pas comme le chien d'or. Je veux dire, il faut quand même des années pour arriver à avoir une récolte.
Oui, et puis c'est ce qui vous nourrit aussi, particulièrement dans ces pays pauvres. Donc, il y a ce problème terrible, et il y a le problème de l'eau qui est un des problèmes clés aussi dans cette région. Ouais. Et ben, c'est vrai aussi que les puits sont confisqués, si vous voulez. Cette espèce qu'on appelle le mur en lui-même, il existe en fait au nord surtout de la Palestine. Il peut aller jusqu'à 8 mètres de haut. C'est du béton. Du côté de Bethléem, on en est à une sorte d'autoroute avec des radars partout qui est électrifié. Si vous touchez, et on a coupé, mais carrément des propriétés, enfin quand je dis des propriétés, oui, des propriétés, c'est le terme exact, en deux, mais c'est-à-dire que votre jardin peut faire 10 mètres, et bien vous avez un mur à 3 mètres, et ça, vous n'êtes plus chez vous.
Alors bon, et alors ça c'est déjà. Alors ce sont des mesures qui ne protégeront pas la population israélienne des poseurs de bombes, mais qui risquent au contraire, en exaspérant les populations palestiniennes, parce que c'est ça en fin de compte qu'on voit se développer depuis des dizaines d'années. C'est l'exaspération qui évidemment chez les éléments les plus enflammés les amène à commettre des actes épouvantables, parce que je veux dire que mettre une bombe dans un supermarché israélien ou dans un cinéma ou dans une discothèque, ça n'apprésente vraiment aucune justification politique, mais l'exaspération des gens nous permet de comprendre pourquoi de tels actes de terroristes existent. Et donc il n'y a pas de solution au Moyen-Orient, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice. Et la justice veut dire qu'il faut reconnaître les droits de chacun et ne pas à la fois avoir une position diplomatique qui consisterait à faire semblant d'accepter des processus de paix et sur le terrain continuer des mesures vexatoires vis-à-vis des Palestiniens.
Ben écoutez, ça c'est effectivement le problème, parce que pareil, je vous donne un exemple parce que ça me paraît probant. Je me souviens d'une jeune fille qui me disait que pour aller suivre une heure de cours dans sa faculté, qui est sur le territoire palestinien, alors qu'elle habite Bethléem, qui est bien sûr en territoire palestinien, et qu'il y a évidemment une continuité entre ces deux endroits, elle mettait 5 heures. Et ça dépend du bon vouloir de jeunes gens de 18-19 ans qui peuvent jouer au foot et qui vous disent, ben, vous restez là et vous attendez 5 heures.
Oui, tout à fait, on a vu. C'est effrayant.
Et quand vous voyez, bon, pour les jeunes gens, c'est affreusement dur, mais quand vous voyez des personnes âgées, des femmes, des vieillards, c'est terrible. Et il faut savoir quand même aussi que bon nombre d'entre eux, enfin les hommes, peuvent se retrouver à Jérusalem dans les postes de police où ils sont pas forcément très bien traités.
Oui, oui,
alors effectivement, c'est ce que vous dites, c'est ce problème qui est terrible, c'est que ça, tous les sentiments sont un petit peu exacerbés. C'est pas même un petit peu, il y a une tension que j'ai souvent rencontrée au Moyen-Orient, mais j'ai trouvé alors là particulièrement pénible à Bethléem.
Oui, c'est le nœud du problème. C'est quand même curieux, oui, c'est curieux parce que c'est quand même le Bethléem est vraiment par définition. La cité, elle est encore plus sainte que Jérusalem. C'est la cité de toutes les saintetés, cette petite ville de Judée, puisqu'elle a vu naître le prince de la paix. Enfin bon, c'est terrible de voir que cette ville. Alors, je ne sais pas s'il y aura une messe de minuit ce soir. On ne sait pas. Quelles sont les nouvelles.
Il en est question, mais vous savez, tout est possible. Même les habitants de Bethléem ne peuvent. Souvent, ne peuvent pas sortir. Hein. Ils n'ont pas de papier pour sortir. Ils ne peuvent même pas aller assister aux offices à Jérusalem si ils en ont envie.
Mmh.
On supprime de la même manière qu'on supprime les visas d'entrée et les permis de séjour pour les religieux. Hein. On les met pas à la porte.
Oui, j'ai vu. Il y a eu beaucoup d'incidents de cette nature, beaucoup d'incidents.
Il y a eu, parce que je sais pas quel temps il nous reste exactement, mais...
Nous avons encore 7-8 minutes avant la pause de 19h30.
Je voudrais vous citer quand même une... Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la citer tout à l'heure, je vous ai pas entendu tout le temps, ce qu'a dit Monseigneur Etchegaray.
Non, je ne l'ai pas cité.
Président émérite du Conseil pontifical Justice et Paix. Et qui a dit, je vous cite, dans tout le pays, une barrière de séparation déjà longue de 150 km dessine inexorablement une géographie d'apartheid qui excite plus qu'elle ne maîtrise la violence, lacérant un tissu humain avec de graves conséquences sociales, économiques, éducatives et sanitaires. Et ben, je crois que ça résume.
C'est tout à fait, ça résume parfaitement la situation. Ce mur ne sert strictement à rien, si ce n'est encore à dépenser de l'argent qui pourrait être investi ailleurs, mais ça, je voulais dire que de ce point de vue-là, les Français n'ont guère de leçons à donner aux Israéliens, parce que Dieu sait si nous en gâchons, mais surtout, il est là pour exciter davantage la haine, l'exaspération, enfin, c'est une chose tout à fait naturelle.
Il faut dire aussi que pour essayer de quand même vraiment d'être le plus... d'avoir un regard le plus... juste possible, enfin tenter en tout cas de l'avoir, c'est qu'il y a bon nombre d'Israéliens qui dénoncent aussi.
Oui, la situation. Bien sûr.
Il ne s'agit pas de
confondre le peuple israélien, qui est d'ailleurs composé de juifs et d'arabes, parce qu'il y a aussi des arabes de nationalité israélienne. Il ne faut pas confondre le peuple israélien avec l'actuel gouvernement de M. Sharon.
Voilà.
Je crois que, je ne pense pas aussi qu'on ne peut pas confondre le peuple français avec celui de M. Chirac, ou le peuple américain avec M. Bush, ou ça tombe sous le sens.
Voilà.
Bon, toutefois, c'est vrai que...
Vous savez que c'est un pays qui est assez tendu, donc je crois qu'il faut être nuancé.
Très, très, très nuancé. Ouais. Je crois que nous avons intérêt toujours à avoir de la nuance, parce que c'est vrai que sur place, les nuances ont tendance à s'effacer.
Voilà.
Et que les camailleux que nous avons l'habitude d'utiliser, nous, là-bas, c'est vraiment noir-blanc. Et puis voilà, quoi, et c'est comme ça que les drames arrivent. Il nous reste encore 5 petites minutes, alors sortons un peu de Bethléem. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques autres paroles sur d'autres pays que vous auriez visités, l'Irak, par exemple, où vous étiez il y a peut-être peu de temps.
Eh bien, écoutez, oui, on peut parler de l'Irak si vous voulez. Écoutez, l'Irak, c'est aussi c'est un peu le même problème pour les chrétiens de toute cette région du monde. Mmh. Hein, je crois que si vous me permettez juste de revenir sur Bethléem, justement sur le Moyen-Orient, c'est le problème de l'exode, c'est que les chrétiens de toutes ces régions, puisque ce soir c'est Noël, ont tendance à s'en aller et je vais vous dire, je crois que c'est difficile de leur donner des leçons quand on n'est pas sur place.
C'est clair.
Et j'admire particulièrement ceux qui restent et qui aident ceux qui sont là-bas à rester. Parce que c'est vraiment le problème numéro un. Il y a, par exemple, on revient sur Bethléem, vous pouvez pas vous imaginer, il n'y a pas de semaine où il n'y a pas des familles qui partent. Et s'ils ne sont pas israéliens, ils ne peuvent pas passer par l'aéroport de Tel Aviv. Ils sont obligés de passer par la Jordanie. Bon. Alors, je vous donne cet exemple pour Bethléem, mais je crois que c'est la grande tentation, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Irak, c'est particulièrement vrai aussi en Irak, où les chrétiens ont envie de s'en aller parce que c'est très très dur, c'est très difficile de vivre là-bas.
Ouais, c'est effrayant.
Aussi en Syrie, c'est vrai au Liban, mais exactement le même problème au Liban, notamment au sud Liban, qui est en train de se vider complètement des chrétiens. Là où tout à l'heure j'évoquais Raoul Folraud qui essaye de les aider à rester aussi beaucoup. Et voilà. Et pour vous en dire plus, j'ai envie de vous renvoyer.
Alors oui, vous avez écrit des papiers qu'on va en parler tout de suite. Alors je vous écoute là, bien sûr. On va noter ça avec beaucoup de diligence.
Non, mais je crois que c'est parce que vous aurez des chiffres précis, et moi j'aime bien les chiffres qui sont précis, enfin les précisions. Je vous renvoie à une magazine qui s'appelle Histoire du Christianisme Magazine.
Alors ça s'appelle, c'est Christianisme Magazine ou...
C'est Histoire du Christianisme.
Voilà, c'est Histoire du Christianisme.
Voilà. C'est un magazine.
Qu'on trouve en kiosque, oui, d'accord.
On la procure, c'est une bonne librairie.
Très bien.
Et puis, je vous renvoie à Valeurs Actuelles, à Spectacle du Monde.
Et c'est paru dans Valeurs Actuelles et Spectacle du Monde.
Spectacle est sorti, oui, la semaine dernière.
D'accord.
Et Spectacle du Monde.
Ça doit paraître.
Ça doit paraître en janvier.
Voilà, parce que dans le numéro de décembre, je n'ai pas vu votre signature. Non. Dans le dernier numéro qu'on a reçu il y a une petite huitaine de jours à peu près. Donc Valeurs Actuelles, c'est celui de cette semaine ou celui de...
C'est celui de cette semaine, oui.
Celui de cette semaine. Donc alors, il faut se précipiter parce que les semaines sont très courtes. Voilà, elles ne durent que 7 jours, malheureusement, même en période de fête. Et puis donc, Histoire du Christianisme, là, c'est le numéro qui est sa mensuelle, je crois, Histoire du Christianisme.
C'est un bimensuel.
Bimensuel, il paraît donc.
Je vais rappeler vos auditeurs que ça, bimensuel, ça signifie en fait que ça sort tous les deux mois.
Ah, donc c'est bimestriel alors, c'est bimestriel.
Bimestriel.
Il sort tous les deux mois, donc bimestriel. Donc là, vous pouvez vous précipiter un peu moins vite pour le trouver dans les kiosques. Et là, vous avez signé des papiers dans ces publications.
Voilà, j'ai signé des papiers avec ma consoeur qui s'appelle Nathalie Duplan et qui a voyagé avec moi pendant deux mois.
C'est pas trop difficile pour des femmes de voyager dans ces pays, non? Avec les histoires de voile, de choses comme ça, non.
Écoutez, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai envie de vous dire à la grâce de Dieu.
Ouais.
Si, c'est un petit peu difficile, mais qu'est-ce que... Il faut... Vous savez, c'est un métier. Nous pratiquons le même, vous et moi.
Hein. Oui, sauf que moi, j'ai pas besoin de mettre un voile pour pratiquer mon métier.
C'est vrai.
Je suis à peu près... Et oui, c'est l'avantage
d'être... Quelquefois, je ne fais pas plaisir, mais je n'ai pas le choix. Ok.
Bien, écoutez, Valérie, on était très contents de vous entendre, donc nous renvoyons nos auditeurs aux articles que vous avez écrits et qui ont été déjà publiés ou qui vont paraître dans Histoire du Christianisme, le numéro en cours, qu'on trouvera en kiosque et dans les magasins religieux, genre Procure, Silo, etc. Dans Valeurs Actuelles, que là on trouve absolument partout en kiosque, et puis dans le Spectacle du Monde du mois de janvier, où les auditeurs pourront découvrir beaucoup d'informations sur le très bon travail de journaliste que vous faites sur le terrain et dans cette région tellement controversée, tellement où la haine et la guerre sont tellement fortes que je ne peux encore une fois que redire cette citation tirée de la Ballade de la Paix de Charles d'Orléans, priez pour paix, le vrai trésor de joie. C'est vraiment le cas en cette nuit de Noël, qui est la nuit de toute grâce et la nuit de la paix donnée au monde. Valérie, je vous laisse donc en famille maintenant avec...
Oui, ça sonne un petit peu. Et je vous renvoie aussi, quand même, je me permets,
oui,
pour envoyer à Raoul Folraud pour vos auditeurs et qui peuvent aider toutes ces populations,
oui,
en mentionnant l'aide au développement.
D'accord. Raoul Folraud, alors par contre, je sais pas, je n'ai pas l'adresse sous les yeux.
L'adresse de Raoul Folraud, c'est 31 rue de Danzig.
Ah voilà, c'est 31 rue de Danzig, Paris 15e.
Voilà.
Donc 31 rue de Danzig, Paris 15e, c'est l'association Raoul Folraud, une magnifique œuvre caritative. Alors celle-là, on peut lui donner en toute confiance.
Puisque... mentionner qu'il s'agit de l'aide au développement.
Alors voilà, pour l'aide au développement, vous pouvez vous renseigner et envoyer vos dons, et je crois que cette aide sera parfaitement bien répartie et parfaitement bien contrôlée. Valérie Rollin, merci. Je vous souhaite quand même un très très joyeux Noël.
Écoutez,
et puis j'espère surtout que nous aurons bientôt le plaisir de vous avoir en chair et en os dans ce studio et non plus par le téléphone.
Écoutez, je vous souhaite aussi un très joyeux Noël ainsi qu'à tous vos auditeurs, et j'ai une pensée particulière pour ceux qui seront tout seuls,
oui,
et ceux qui sont malades. Voilà.
Eh bien, c'est pour ça que nous faisons cette émission en direct. C'est aussi pour eux que nous le faisons ce soir.
Bonsoir.
Merci Valérie, à très bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc c'était Valérie Rollin, journaliste, qui nous a parlé un peu de la situation au Moyen-Orient.
Juste un petit message, un petit peu pessimiste sur ce qui vient d'être dit. Un auditeur nous dit, s'il n'y avait pas de virus, on n'aurait pas besoin de vaccin.
Tout cela est bien vrai, et sur cette très belle citation d'auditeur, nous allons nous interrompre quelques minutes, parce que nous allons passer à la seconde partie de l'émission Subito Presto.
Voici la seconde partie du libre journal de Serge de Beketch hier soir. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck. Émission préenregistrée dans sa dernière demi-heure de le 11 décembre 2003 et diffusée pour la première fois mercredi 24 décembre 2003 de 18h à 21h. Puis jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn et Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative, décidément. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, nous revoici, chers amis auditeurs, pour cette deuxième partie du Libre Journal de Serge Bekech, dirigée ce soir par Daniel Amiche. Deuxième partie qui sera quand même écourtée, puisque nous aurons Cécilia Dem en dernière demi-heure, qui, ne pouvant être à Paris aujourd'hui, a enregistré au préalable une gentille petite chose sur des fleurs, des plantes, enfin je ne sais plus, c'est très bien. En tout cas, elle m'a dit que c'était très bien, et elle tenait impérativement que cela fût diffusé ce soir. Donc je pense que ça tournera autour de Noël. Enfin, je suppose en tous les cas. Alors, François de Crécy nous a fait l'amitié d'être dans le studio depuis 18h, écoutant tout avec beaucoup d'attention et peut-être d'intérêt, allez savoir, et plus si affinité.
Beaucoup d'intérêt, bien sûr.
Alors, il va nous parler dans quelques minutes, de l'agenda Venise qu'il vient de produire, agenda Venise 2004, mais dans un premier temps, j'aurais souhaité que notre chère Jacqueline nous ait la bonté de lire les messages que les auditeurs ont eu eux-mêmes la bonté de nous envoyer. Car tout n'est que bonté.
On a des messages de félicitations pour l'émission. Merci à Daniel Amiche et à Jacqueline Venbrugge. Je vais essayer de moins bafouiller. Excusez-moi.
Surtout, prononcez bien. Je n'ai pas compris le deuxième nom, c'est Jacqueline.
Le Venbrugge.
Ah, c'est vous.
Oui. De nous tenir agréablement compagnie en ce 24 décembre. Joyeux Noël à vous et à toute l'équipe de Radio Courtoisie. Et c'est signé. Et puis aussi un octogénaire qui, pour lui, Radio Courtoisie, c'est vraiment le plaisir de la semaine. Vous faites bien de secouer les gens car ils s'endorment. Merci pour vos émissions.
Eh ben, écoutez, on est là pour ça, et puis voilà, puis je trouve que c'est normal. Moi, de toute façon, j'aime pas beaucoup enregistrer, parce que je trouve que ça manque de fraîcheur, ça manque de spontanéité quand on enregistre. J'ai fait enregistrer peut-être une fois une émission d'une demi-heure ou d'une heure, je me souviens plus. Mais depuis 10 ou 11 ans que je suis derrière ces micros, j'aime bien être en direct, même dans les périodes où il fait très chaud l'été, où il fait très froid l'hiver, les choses de Noël. Le 15 août, j'ai déjà fait des 15 août, j'en fais beaucoup de choses.
Un auditeur nous dit que la balade de Charles d'Orléans a été mise en musique par Maurice Jobert, mort héroïquement en 1940,
comme
son frère Jean Alain, et qui est aussi le frère de Marie-Claire Alain, qui était organiste.
Ah, oui, grand organiste, Marie-Claire Alain. Oui. C'est très, très, très bonne précision, c'est très utile, mais j'ignorais. Je ne sais pas tout, monsieur, donc c'est pour ça que je suis plus intelligent grâce aux auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes une intelligence collective, comme un grand cerveau neuronique, et on sait tout. Grâce à Radio Courtoisie, à ceux qui sont derrière les micros et à ceux qui sont derrière les haut-parleurs. Voilà.
Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de pesetas en Espagne. Il n'y en a plus, des pesetas en Espagne. Ce sont des euros. Vous avez parlé
du film. Qu'est-ce que c'est, ça, les euros?
Alors, un auditeur, en réponse à la
montée... Alors, on dit plus salut les pesetas quand on trinque. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on dit salut les euros et euros, comme on dit. Euros.
Non, Dieu. Comme j'étais sur Mel Gibson, il y a un message tout à l'heure. Alors, êtes-vous au courant de la parution sur Internet de Boursorama? Vous connaissez? Boursorama, c'est une reproduction de Reuters le 18 décembre 2003 à 14h18, c'est précis. Et ce Reuters avait reproduit un article cité du Vatican, c'était le titre, et ça parlait de la passion de Mel Gibson.
Oui, 18 décembre. Oui, c'est ça. Dans cet article de Reuters, je crois qu'il y a quatre erreurs. Il y a une erreur, je crois qu'ils disent que c'est le film La Passion et le deuxième film réalisé par Mel Gibson, c'est le troisième. Je me souviens plus exactement par cœur, et non, je connais, j'ai tout lu, mais je connais pas par cœur. Mais je sais que dans cet article de Reuters, ce qui a fait très fort ce jour-là, c'est très très intéressant. Dans ce même article, on disait à la fin de l'article, après avoir dit que le pape avait aimé, ils sont dû se tirer les poils du nez pour le dire. Alors il y a un truc très spécial à la fin en disant, parce que Mel Gibson, il appartient à une frange catholique un peu extrémiste, dont le film a suscité de l'inquiétude dans les milieux juifs parce que les juifs avaient peur que ce film réveille la notion de juif peuple déicide telle qu'on peut la lire dans la prière du Vendredi Saint de l'ancienne liturgie qui a été abolie par le Concile Vatican II. Alors moi je sais pas où est-ce qu'ils ont vu dans l'ancien missel peuple juif déicide. J'aimerais vraiment qu'on me le montre, mais qu'on me le souligne en rouge. Voilà. Alors ils se sont tous recopiés parce que l'AFP avait fait la même erreur. Ils se recopient tous. Donc voilà. Quand vous ouvrez les missels d'avant 65, vous trouverez aux prières du Vendredi Saint où l'on priait effectivement pour la conversion du peuple juif. bien évidemment, et on continue à le faire d'ailleurs, même dans le nouveau rite, mais vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup de mal, sauf si vous l'imprimez vous-même sur votre petite imprimerie Renéo chez vous, à trouver l'expression dans le missel « juif, peuple, déicide ». Vous voyez, donc quand ils ne savent pas, ce qui est très bien avec les gens, ces genres de journalistes, qui sont ceux qui alimentent les autres journaux d'information, j'insiste beaucoup, ils devraient être 100 fois plus prudents qu'un journaliste qui écrit dans le petit bleu des Côtes du Nord, bon, qui est lu par 3412 personnes. On est encore plus responsable. Ces gens sont des ignares, des crétins. Donc, je vous disais, il y a encore deux autres erreurs dans cette dépêche que je connais, oui, parce que je la connais quand même. Il y a deux autres erreurs, je me souviens plus, des bêtises, des trucs absolument mais stupides. Mais voilà, c'est comme ça.
Voilà, puis un auditeur nous avait dit, ou une auditrice, je ne sais plus, en cette veille de Noël, pourriez-vous éviter de nous parler de l'islam et du voile islamique ?
Éviter ou...
Éviter.
Ah, éviter de parler, oui, du voile islamique, oui. Mais non, mais je peux en parler si... Alors, rien que pour embêter l'autrice, je peux en parler.
Je réponds par un auditeur qui nous dit que, en réponse à la montée de l'islamisme en France, il serait urgent d'organiser une gigantesque marche de prière derrière la croix entre Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur.
Ah, certainement pas, si ostensible, interdit. Hein.
Pour donner.
Ah ben, c'est la voie publique. Hein. Tout ce qui est public, non, on ne doit plus rien voir de religieux dans le public, monsieur. Que ce soit l'école publique, qui, comme les filles, porte bien son nom, que ce soit les voies publiques, les bâtiments publics et l'assistance publique, on ne doit plus voir de signes religieux. Cacher ce crucifix que je ne saurais voir. Voilà.
Pour donner à cette marche une portée nationale, il faudrait qu'elle ait lieu sous l'égide de l'archevêque de Paris, reliée par toutes les paroisses de France.
C'est
face
une bonne
au lobby laïcisant et islamisé, Monseigneur Lustiger osera-t-il ?
Demandez-le-lui, cher auditeur, demandez-le-lui. Moi, je suis tout pour toutes les propositions, à condition que vous ne fassiez pas travailler, parce que je ne peux plus. Là, je suis saturé, je travaille 7 jours par semaine, je ne travaillerai pas plus. Mais donc, si le cœur vous en dit, oui, on peut toujours essayer.
Et puis, nous disons de demander Le Royaliste, c'est une revue.
Royaliste.
Oui, Le Royaliste. Qu'en pensez-vous ? C'est de Bertrand Renouvin.
Ah, bon, je ne peux pas en parler en l'absence de Bertrand Renouvin.
Bien sûr.
Comme je ne suis pas près de l'inviter, donc on peut en inférer ce que j'en pense. Voilà. Mais, hein, il y a beaucoup de chambres dans la maison du père, comme dit l'autre, puis il y a des mansardes aussi, enfin voilà, il faut de tout pour faire un monde. Bon, c'est tout fini, si, il y avait quelqu'un qui n'était pas content que j'ai parlé du film de Mel Gibson, non ? Une auditrice qui a dit qu'encore, il en parle encore.
Ah oui, oui.
Ah oui, vous l'avez dit, ça. Ah bon, d'accord, très bien.
Mais
ben, alors, pour cette auditrice, je la préviens tout de suite que mercredi prochain, en première partie, j'en reparlerai. Voilà. Mais madame, soyez rassurée, j'en parlerai entre 18h et 18h12. Donc, par exemple, vous pouvez allumer le poste à 18h12.
Non, mais je lui ai dit que vous en parlez que pas très longtemps, alors elle comprendra très bien.
Pensez ?
Oui.
Parce que j'ai l'intention d'en parler plus en plus, je vais faire monter
mercredi
la sauce.
Mercredi prochain.
Alors, nous parlions tout à l'heure des signes ostensibles, ce brave auditeur qui voudrait que nous défilions tous derrière la croix dans les rues de Paris. Eh bien oui, c'est une très bonne solution. Mais on peut aussi la porter sur soi. Alors là, j'ai trouvé un truc très très drôle. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, on me l'a envoyé. Je l'ai reçu avant-hier, donc c'est vous dire que c'est tout nouveau. C'est édité par les éditions Clovis. C'est un disque compact qui s'appelle Chant de la croisade eucharistique. Et le grand titre, c'est La vaillante armée. Alors, le mouvement eucharistique, la croisade eucharistique, c'est né au début du 20e siècle, peu de temps après l'élection de Saint Pie X, dont nous fêtons cette année 2003 le centenaire de l'élévation au suprême pontificat. Grand pape, saint pape. Et la croisade
vénitien.
Vénitien. Ah oh bah voilà, bravo mon cher.
Voilà pour la transition.
Voilà, il était que c'était le patriarche de Venise, qui a été élu le pape de la Sainte.
Il est né en Vénétie.
Il est né
tout près de Venise.
Sarto, Joseph Melchior Sarto. C'est qu'on lui doit beaucoup de choses, énormément de choses, et notamment la communion pour les petits enfants, qui avant ne se faisait pas, et puis aussi la communion fréquente. Et donc, avec les enfants, des religieux ont l'idée de lancer une croisade eucharistique pour montrer que l'eucharistie c'était la vie. Le pape vient de le répéter, encore rappelé dans sa dernière encyclique. L'Église vit de l'eucharistie et le monde entier vit de l'eucharistie. Et j'ai trouvé dans ce très beau qui est une fraîcheur extraordinaire. Alors les textes évidemment datent un peu, c'est des textes du début du 20e siècle. Alors c'est pas nictamère, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même esprit, hein, c'est pas les mêmes rythmes non plus. C'est très beau, c'est frais, c'est pur, c'est limpide. Ce sont des enfants qui chantent, de très belles chorales d'enfants avec de très jolies voix. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, si vous voulez bien, on va écouter le premier, qui est le premier du disque compact. Il y a beaucoup de disques, il y a beaucoup, beaucoup de musique. Il y a 26 musiques, c'est très beau. Ça s'appelle « Nous sommes la vaillante armée ». Et vous allez voir, c'est charmant. Et alors, j'invite nos auditeurs à écouter particulièrement le quatrième et dernier refrain. Je vous le lis. Il est très beau. Aux yeux de tous, sur la poitrine, nous portons un signe sacré, la croix rayonnante et divine, qu'après lui, nous serons portés. Parce que les membres de la croisade eucharistique portaient un petit insigne, qui est une croix avec un petit cercle autour, c'est marqué Ecce Panum Angelicum, chose comme ça. C'est absolument réussissant. Emporter ce petit signe qui va bientôt être interdit. Alors, j'offre ce disque à notre président bien-aimé Ceaușescu, au président de la commission Stasi, à monsieur Stasi, comment est-ce que je pourrais dire pour ce monsieur, qui n'est pas une chance pour la France, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à tous ces comparses, complices et séides de la commission, je leur dédie ce « Nous sommes la vaillante armée » en les invitant à prêter l'oreille au quatrième couplet. Ben voilà, c'est pas mal, hein, Jacqueline, j'aime beaucoup ça, c'est frais, c'est joyeux, c'est bien, c'est spirituel, enfin spirituel au sens de l'élévation spirituelle, ça nous change de toutes les turpitudes qu'on entend, et donc je le dédie spécialement au président Ceaușescu, à monsieur, comment il s'appelle, Stasi, ça a déjà un nom des polices secrètes, Stasi, hein, c'est très très mauvais, bon, attention, hein, voilà, et bon, on leur donne tout ça. Allez, vraiment, on a affaire vraiment, mais c'est où est-ce qu'on est tombé? Mais où est-ce qu'on est tombé? c'est effrayant. Alors donc, c'est un disque qui s'appelle La Vaillante Armée, chant de la croisade eucharistique. C'est édité chez Clovis, ça vient juste de paraître. Donc, bah, Clovis, voilà, vous avez Clovis, bon, c'est la librairie Saint-Nicolas. Enfin, on le trouve partout, librairie Saint-Nicolas, Duquesne Diffusion. Et alors là, c'est des chœurs de Belgique, donc la croisade eucharistique de Belgique, avec de jolies petites photos. Alors, il y a des trucs qui sont très belges, là, il y a des machins sur... c'est très, très bien. Voilà, moi, je trouve ça épatant. Je suis enchanté de vous avoir fait entendre ça. Je me venge comme je peux. Alors, cher François de Crécy,
oui,
votre patience va être enfin récompensée, sauf s'il y a une pale générale d'électricité dans le quartier, là, comme ça, on est mort. Voilà, vous venez nous parler donc d'un agenda. Moi, j'appelle ça album agenda. Mais non, ça s'appelle Agenda Venise 2004, que vous avez commis avec l'ami Benoît Manchon, qui est une œuvre d'art, qui a été préfacée par Michel Mort de l'Académie française. Pourquoi Venise? Pourquoi un agenda de cette nature?
Alors, Benoît Mancheron avait déjà réalisé des agendas dans le passé, et notamment un splendide, ou même deux splendides agendas de marine, un agenda du vin et peut-être d'autres encore. Et tout simplement, c'était, je crois, fin avril, début mai, il, sans doute à la recherche d'un thème, il m'a proposé d'apporter mon concours à un agenda sur le thème Venise.
Fin avril de cette année, là?
Oui, 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 oui.
Ça, vous avez fait ça en si peu de temps?
Eh bien, disons que le mois de mai et le mois de juin étaient bien occupés, effectivement, puisqu'il fallait assurer la coordination de l'ensemble. Il fallait aussi rédiger 53 notices sur un thème particulier touchant Venise, puisqu'il y a une notice par semaine. Et puis écrire une histoire de Venise, qui est le chapitre du mois de janvier, et trouver des collaborations, de bonnes collaborations pour tous les autres sujets abordés. Donc Anne Brassier, bien connue ici, a traité le carnaval. Et Jean-Marc Varro, les écrivains et Venise. Étienne Taimit de l'Académie de Marine, Venise et la mer. Et puis d'autres, il y a l'architecture, bien sûr, la peinture, la musique à Venise, tous les grands thèmes vénitiens sont abordés les uns après les autres. La cuisine.
L'art de vivre, là vous avez un collaborateur de prestige. Un collaborateur de prestige.
Oui, alors il y a aussi de grands auteurs, effectivement.
Théophile Gautier.
Voilà. Théophile Gautier. C'est mon premier soir à Venise par Jean Lorrain, les derniers jours de Venise par Yves Amiot.
C'était extraordinaire. Multo a fait un remarquable chapitre
sur Venise et le cinéma.
Donc c'est plus, alors évidemment c'est un agenda au sens où vous avez tous les mois, toutes les semaines, les fêtes des semaines, les dimanches, le petit calendrier, tout. Mais c'est surtout, c'est plein de grandes histoires, de petites histoires. C'est admirablement illustré. La mise en page, c'est... Est-ce qu'on peut dire qui est la personne qui a fait la mise en page de cette splendeur?
Eh bien, le nom de la maquettiste m'échappe, là. Mais il faut absolument remercier Véronique Villain, qui a énormément travaillé pour la préparation de cet agenda.
C'est absolument... C'est prodigieux.
Alors... Et remercie aussi Benoît Mancheron, qui a choisi toutes les illustrations avec c'est moi. Et c'est un travail plus long qu'on ne pense, parce que je pensais au départ que... il était au fond plus difficile d'écrire que de choisir les illustrations, mais je suis sur le point de penser que c'est l'inverse.
C'est un art en soi. Je veux dire ce qu'on appelle l'iconographie, les iconographes. Je préfère ça à illustrateur. Parce qu'illustrateur, on pense que les gens qui dessinent, un illustrateur, quelqu'un qui dessine, mais qu'un iconographe, c'est celui qui va chercher les sources pour illustrer comme il convient avec des documents d'époque, des reproductions.
Alors, je suis très à l'aise pour en parler, puisque cela ne me doit rien, mais la qualité de la reproduction des tableaux de Canaletto, de Guardi, de Longhi, de Carpaccio, vraiment, j'ai été absolument étonné et ravi à la fois de voir la qualité des reproductions.
C'est extraordinaire. Alors, pourriez-vous nous dire... donc, vous avez choisi... C'est Mancheron qui a choisi Venise. Il a décidé que ce serait Venise.
En tous les cas, c'est lui qui m'a demandé si je pouvais relever ce défi et traiter Venise en deux mois, oui.
Et vous avez accepté?
Oui, sans hésiter une seconde. Il faut se jeter à l'eau dans ces cas-là. Si on réfléchit on finit par dire non.
Pourquoi avez-vous accepté? C'est parce que vous connaissiez déjà Venise?
C'est parce que je connais... Oui, je connais assez bien Venise. J'aime beaucoup Venise. J'ai dû déjà y faire une dizaine de séjours, et des séjours assez longs, souvent 3 semaines de suite. Les éditions de Paris, très gentiment, m'avaient fait confiance en publiant un petit livre qui s'appelle tout simplement Venise, avec une préface de Michel Mort et des dessins d'une d'une amie qui a fait les Beaux-Arts de Venise, des petits croquis très simples, mais qui illustraient chacun des chapitres. Et donc, par ailleurs, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Venise, que j'ai une bibliothèque sur Venise assez impressionnante, à peu près 300 volumes, et que chaque fois que je peux, je note des dates, des événements. Donc j'étais quand même relativement prêt à traiter ce sujet, encore que, bon, il fallait le faire.
Vous pourriez nous traiter comme ça au débotté ce soir, sans préparation, nous faire une petite synthèse de l'histoire de Venise?
Une petite synthèse. Alors, c'est une histoire qui est longue, puisque la fondation légendaire de Venise, c'est 421, que le premier doge de Venise, c'est 697, et donc on peut vraiment dater l'histoire de Venise de 697, et qu'elle n'a pris fin que par Bonaparte, en 1797. Donc Venise, si vous me demandez d'en parler brièvement, il faut que je résume 11 siècles d'histoire.
Mais cette ville n'existe pas.
C'est on pourrait dire que ce qui est extraordinaire dans l'aventure vénitienne et absolument stupéfiant, c'est que tout démarre dans la lagune, c'est-à-dire en fait sur des îlots de vase. Rien ne prédisposait les Vénitiens à dominer le monde occidental comme ils l'ont fait pendant longtemps, à dominer la Méditerranée au temps où elle était le centre du monde. Et ces réfugiés, puisqu'en fait ce sont des habitants de la côte, des habitants de Padoue et des villes de la côte, qui, chassés d'abord par les Huns puis par les Lombards, se sont réfugiés dans ces petits villages de pêcheurs de la lagune. On fait venir ensuite des millions d'arbres des montagnes du Cador, on renforcé les îlots de vase pour pouvoir édifier d'abord des maisons en bois, puis les magnifiques palais qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Venise. Donc Venise ensuite conquiert l'Adriatique, puis toute la Méditerranée. La conquête maritime commence à peu près en l'an 1000. En l'an 1000, Venise est reconnue comme la maîtresse de l'Adriatique. C'est la grande cérémonie annuelle à l'ascension des épousailles du doge avec la mer. Nous t'épousons, ô mer, en signe de domination. Et puis, je situe à peu près l'apogée de Venise vers 1450, parce que à la fin du 15e, les choses vont basculer. 1453,
c'est la fin du Moyen Âge. Voilà, c'est la fin du Moyen Âge.
1453, c'est la chute de Constantinople. Et puis un peu plus tard, la toute fin du 15e siècle, c'est la découverte des nouvelles routes maritimes, et donc le centre du monde progressivement va se déplacer de la Méditerranée à l'Atlantique, ce qui va aussi causer du tort au commerce vénitien.
Alors, vous parliez de Byzance. Quels étaient les rapports entre Venise et Byzance?
Alors, tout à fait à l'origine, Venise est un peu la vassale de Byzance. On se demande d'ailleurs si les deux premiers doges sont vraiment des doges ou seulement des exarques, en fait, de Ravenne, qui dépendaient directement de Byzance. Elle s'est émancipée assez vite, on peut considérer qu'à partir de 850, elle a son indépendance totale, reconnue y compris par les Francs. Et alors, à Byzance, il y avait un quartier vénitien extrêmement important. Et pour vous donner une idée de la force des Vénitiens à Constantinople, c'est qu'il y a eu un vote un jour au Sénat, et le gouvernement vénitien s'est demandé très sérieusement s'il fallait pas déplacer le siège du gouvernement du palais ducal à Constantinople. Et semble-t-il, ça s'est joué à une ou deux voix de majorité.
C'était très intéressant, très intéressant. Donc, Alors, ce sont d'abord des pêcheurs ou des marins, ou quelle est la population de...
Tout début, ce sont des pêcheurs. Ensuite, l'extension économique vient par le sel, les lagunes, notamment toute le sud de la lagune et l'industrie du sel. Et puis, petit à petit, le commerce avec une flotte qui était la première flotte de l'Occident. Et ce qui l'est resté longtemps, puisqu'il faut pas oublier qu'à Lépante, c'est quand même les Vénitiens qui ont fourni la grande majorité des navires.
Navires et des galères.
Dans cette journée d'octobre 1571, que tout le monde connaît.
Que tout le monde devrait connaître, en tous les cas. Mais, alors, ils poussent, enfin, ils ne restent pas que dans le bassin méditerranéen, parce qu'ils poussent aussi un peu plus loin, les Vénitiens.
Ils poussent, c'est vrai, il y a la Méditerranée, ils remontent en mer Noire, ils ont des comptoirs en Crimée, et ils remontent même le Don. Puisque il y a encore un quai qui s'appelle le quai de la Tana à Venise. Et Tana, en fait, c'était un comptoir à l'embouchure du Don, un comptoir vénitien.
Mais Marco Polo, il est originaire.
Alors Marco Polo est vénitien, bien sûr. Alors il y a eu plusieurs voyages de la famille Polo. D'abord le père et les oncles. Puis ensuite, dans le deuxième grand voyage, qui a quand même duré 25 ans, avec Marco. Et bon, bah, ils vont en Chine. Ils rencontrent celui qu'on appelait le Grand Khan. Et là, il reste 25 ans. Ils ont du mal à revenir parce que, en fait, on ne veut pas les laisser. Partir, ils sont très bien traités, bien sûr. Et ils reviennent à Venise avec des pierres précieuses cousues dans leur manteau. Ils reviennent richissimes.
Et ils rapportent. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous allez me le dire parce qu'il y a un chapitre sur la cuisine, mais j'avoue que je l'ai pas lu. Ils rapportent le vermicelle chinois. Enfin, compte sur que le spaghetti italien contemporain est en fait une invention chinoise que les polos auraient rapporté de Chine.
J'en suis pas absolument certain. C'est possible, mais je l'ai pas vérifié.
Moi, je mettrai pas ma tête dans l'eau bouillante, mais je crois que c'est vrai. Je pense que ça vient que l'origine de la pâte italienne, enfin de la pasta, bon, et surtout de du spaghetti, ça vient de,
c'est très possible.
De Chine. Ça vient de Chine. Parce que les polos, c'est très tôt. C'est quoi? C'est le 12e.
Oui, c'est le
13e siècle.
Le 1200.
Voilà, 13e siècle.
13e siècle.
Quand même, fait 700 ans. C'est intéressant.
Ce qui est très curieux, c'est qu'ils avaient donc plusieurs maisons à côté du pont du Rialto, et les serviteurs étaient restés dans la maison, et les polos sont arrivés un soir, et
coucou,
évidemment
c'est nous. Voilà, 25 ans,
et alors vous savez, en dialecte vénitien on dit qui c'est, pour savoir c'est qui est-ce, hein, qui c'est, et ils ont dit i padroni, les patrons, c'est nous, comme s'ils étaient partis la veille. Mais c'est une anecdote que j'aime beaucoup.
C'est extraordinaire, ça montre que vraiment, à cette époque-là, les notions de temps, évidemment, compte tenu de la lenteur des communications, car il y avait beaucoup de communications, faut pas imaginer que les gens communiquaient pas, ne bougeaient pas, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup plus long. On prenait quand même plus son temps.
Alors, c'était
des grands voyageurs, mais
beaucoup de grands navigateurs.
Eux, par nécessité, c'était quand même tout ça, c'était des commerçants, en fin de compte, parce que la richesse de Venise, c'est le commerce.
C'est le commerce.
Et le commerce un peu monopolistique. Parce qu'une de leurs grandes rivales, c'est la ville qui est de l'autre côté. C'est
Eugène.
De Gênes. Gênes, ça a été toujours des grandes, grandes histoires.
Il y a eu des guerres terribles. Les Génois, d'ailleurs, à un moment, étaient sur le point de prendre le dessus, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à Chioggia et même Malamocco. Ils étaient à 7-8 kilomètres du Rialto.
Et on a vu, il y a très peu de temps d'ailleurs, dans je ne sais plus quelle émission à la télévision, un très beau reportage d'ailleurs, des reportages, je crois que c'est sur la 5, me semble-t-il, sur les nouveaux petits États qui vont intégrer l'Union européenne, appelons ça Union, façon de parler par antiphrase, notamment la Slovaquie et la Slovénie, j'espère ne pas me tromper, qui ont été, ces deux États ont été très très marqués par Venise. C'était eux-mêmes des comptoirs de Venise et une grande partie de l'architecture de, alors, Ljubljana, je pense que c'est la Slovénie, et Dubrovnik, je crois que c'est la Croatie, je peux me tromper parce que j'ai, comme tout bon français, je suis extrêmement mauvais en géographie.
Alors, Dubrovnik, effectivement, c'est la Croatie, c'est l'ancienne Raguse.
Qui a
toujours réussi au cours de l'histoire à maintenir une certaine indépendance vis-à-vis de Venise, mais vraiment la ville stricto sensu et ses environs, car toute la côte dalmate, en fait l'Istrie, l'Illyrie, la Dalmatie ont été vénitiennes, avec des révoltes sporadiques, mais enfin dans l'ensemble ils ont été extrêmement fidèles à Venise. Et ce qui est très émouvant d'ailleurs, c'est qu'à la chute de Venise, les dalmates ont pris le deuil quand il a fallu amener les bannières avec le lion de Saint-Marc. Ils les portaient dans les églises. On dit que les bannières étaient trempées des larmes des dalmates. Ils ont été très fidèles. Alors, à Lépante, d'ailleurs, l'amiral Vrana était un dalmate, et on pourrait citer beaucoup de dalmates parmi les Vénitiens célèbres, en fait.
Alors, d'origine dalmate. Pourquoi le lion, qui est l'animal emblématique dans l'écriture, enfin dans l'Apocalypse de Marc, est-il l'animal symbolique et emblématique de Venise?
Alors, pourquoi le lion? À cause de Saint-Marc. Et pourquoi Saint-Marc? Parce que, en fait, Venise avait un saint patron qui était Todaro, mais il a été remplacé par Saint-Marc en 828, quand deux négociants ont rapporté le corps de Saint-Marc d'Alexandrie à Venise. Des chrétiens d'Alexandrie avaient fait comprendre aux Vénitiens que, compte tenu de la poussée musulmane, le corps de Saint-Marc n'était pas en sécurité. Qu'à cela ne tienne, on dit ces deux marins commerçants. Et sous de la viande de porc, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'enquête, on a ramené le corps de Saint-Marc à Venise. Et donc il est arrivé là en 828. Et aussitôt, évidemment, il a été pris comme saint protecteur et de la ville et de l'État vénitien.
De l'État vénitien.
L'État vénitien.
L'État, c'est pas
vous avez remarqué.
Ville, hein, c'est...
Oui. Alors, c'est vrai que Venise a toujours eu, si vous voulez, a toujours, n'ont pas hésité parce qu'ils ont fait les deux, mais l'extension, enfin, consolider sa position en Méditerranée, mais aussi l'extension en terre ferme. Ce qui était très difficile pour elle, c'est qu'elle n'avait pas d'armée terrestre extrêmement puissante, mais elle a quand même, la Grande Vénétie est allée jusqu'aux portes de Milan.
C'est énorme.
Donc, c'est beaucoup énorme. Plus grand que l'État, que le Véneto actuel.
Alors, au plan politique, comment on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé du Doge, etc. Alors, c'est quoi le système politique à Venise? On dit que c'est une république, c'est une oligarchie, c'est...
Oui, il faudrait... Alors, bon, à l'origine, c'est vrai que le Doge était élu par l'assemblée du peuple, c'est-à-dire faisait largement appel au vote populaire dans les assemblées qu'on appelait l'Arengo. À partir de 1200... Oui, de 1200, 1300, à ce moment-là, le pouvoir passe aux mains de l'aristocratie vénitienne. Et là, on est plutôt, effectivement, dans une oligarchie. Le Doge, lui, est élu par l'aristocratie vénitienne.
D'accord.
Et le Doge n'a pas du tout les pouvoirs étendus que quelquefois on lui prête. Parce que la constitution vénitienne était faite, en fait, pour empêcher le pouvoir personnel. Et
chacun surveillait l'autre.
Chacun surveillait l'autre.
D'accord.
Donc, les Doges n'avait pas un pouvoir immense. En revanche, le Conseil des Dix, par exemple...
Le Conseil des Dix, c'est le Sénat ou c'est le Super-Sénat?
Non, alors, c'est le Super-Sénat, plutôt.
C'est
oui,
le Super-Sénat.
Oui,
donc,
oui,
c'est...
Oui. On tourne beaucoup, évidemment. Il ne faut pas non plus qu'au Conseil des Dix, on retrouve toujours les mêmes, mais...
C'est un système à part, mais qui
c'est un système à part, très original. L'élection du Doge, il y a une notice entièrement consacrée à l'élection du Doge, qui est absolument extraordinaire, avec des séries de tirages au sort multiples. On se demande comment on arrive à gérer un système pareil, mais bon, qui a quand même fait ses preuves jusqu'en 1797.
Donc, c'est pas pire que le comptage des votes pour les élections présidentielles américaines.
Certainement,
on peut dire que là, franchement, bon. Je me tourne vers Jacqueline, parce que je vois qu'une brassée de messages sont arrivés de nos chers auditeurs et de nos chères auditrices.
Sur ce que l'on dit en ce moment, c'est une question d'un auditeur. Préciser le rôle des navires vénitiens pendant le siège de Constantinople en 1453 par les Turcs. Ah, ça, c'est
alors,
bien précis.
Oui, alors il y a deux choses. Oui, il y a d'abord l'attitude des Vénitiens au moment de la croisade, celle qui... et puis il y a effectivement peut-être le rôle des Vénitiens.
Alors, ce qui était très, très critiqué, c'est effectivement le rôle des Vénitiens dans la croisade de 1204. Et il est vrai qu'ayant fourni les moyens en navire aux croisés, en fait, ils ont détourné le but de la croisade, qui était d'aller en Terre Sainte, d'abord en allant libérer Zara, qui est l'actuel Zadar, sur la côte d'Almate, et ensuite en allant à Constantinople. Et là, en fait, ça a été un affrontement entre les Vénitiens et les Byzantins. C'est-à-dire que des chrétiens se sont massacrés entre eux et avec une grande sauvagerie.
Mais donc c'était un règlement de compte entre Vénitiens et Byzantins, c'est ça?
Oui, les Vénitiens ont pris leur place, au moins pendant un temps, parce qu'après les Byzantins ont repris le dessus. Et alors, en 1453,
attendez, avant 1453, ça c'est un point intéressant, parce que c'est quand, bon, ce que vous dites, je l'ai déjà entendu, mais je ne l'ai pas entendu des millions de fois. Autrement dit, dans les manuels scolaires et sur les radios de la grosse presse et du reste, on risque pas de l'entendre souvent. Quand on dit, oui, c'est le sac de Constantinople par les croisés, bon, en fait, qu'ils aient prêté la main, oui, mais le fait réel, c'est que les Vénitiens les y ont poussés.
Oui, parce que les Vénitiens
voulaient régler des comptes avec les Byzantins, avec qui ils étaient en bisbille. Mm. Et les croisés, les Francs, en fin de compte, ce qu'on appelle les Francs, les Francs ou les Anglais ou les Allemands, etc. Enfin, les Francs, quoi, les croisés, ont été en quelque sorte embarqués dans cette aventure.
Ils ont été embarqués.
Et ont tâché d'en profiter le plus qu'ils pouvaient.
Voilà. Bien sûr, parce qu'ils avaient négocié leur part du butin avec les Vénitiens. Et dans les massacres, malheureusement, ils ont joué un rôle au moins égal à celui des Vénitiens, et même dans des destructions.
Oui, mais bon, on peut pas.
Bon, je vais me faire l'avocat.
On parle de Venise, on va pas parler de Byzance, mais enfin, il faut pas non plus. comment dire, il ne faut pas non plus magnifier Byzance, hein, parce que c'était quand même aussi des sacrés cocos quand même.
Hein. Ah oui, oui, bien sûr.
Alors en 1453,
je suis un peu embarrassé pour répondre à l'auditeur, et là donc il faut faire preuve d'humilité. Et, bon, et c'est, peut-être voudrait-il faire remarquer que les Vénitiens n'ont pas apporté l'aide que l'Occident aurait pu attendre contre les Turcs. Mais sur le rôle précis des navires, je dois dire que j'ai un trou.
Il faut l'avouer. Bon, un jour on invitera historien militaire et puis un historien de la marine nous racontera tout ça. Mais
alors, c'est vrai
des fois, vous posez des tas de questions. Combien de tirants d'eau, combien de voiles et tout,
alors,
combien de clous.
J'aurais mes notes sous la main, je saurais lui répondre parce que j'ai dû l'étudier il y a un an, deux ans ou trois ans. Et puis tout d'un coup, vous voyez, là devant le micro.
Vos auditeurs, on leur donne ça, le bout du doigt, piof, ils vous mangent en entier.
Mais ils ont bien raison.
On a un outil.
Et si je connaissais son nom, je lui ferais le point grâce à mes.
Il nous envoie un message sur notes, le mode de la plaisanterie. Et
parlez plus près du micro, petite Jacqueline, parce que je vous entends mal.
À la place du lion, c'est un chien qui est le vrai symbole de Venise en hommage à la célèbre affaire des 101 dalmates.
Oh,
ah oui, voilà, ça c'est très bon.
On voit là un cas de l'humour. Eh ben, on aura tout eu ce soir. Ah bah donc l'almanach Vermeaux est arrivé, cher auditeur. Donc je me précipite pour acheter la nouvelle édition.
Bon, et puis alors, on a des auditeurs qui nous félicitent et souhaitent très bon Noël à toute l'équipe et particulièrement à Danielle Amiche qu'elle aime beaucoup. C'est une auditrice.
Ah bah ça m'étonne
bien
pas.
Sûr. Un auditeur, je ne suis jamais seule avec Radio Courtoisie. J'écoute sur TPS. Étant Marseillais, je souhaite un bon Noël à toute l'équipe de Radio Courtoisie.
Eh bien, joyeux Noël à tous les Marseillais qui nous écoutent. Et puis, à tous les Belges aussi qui nous ont écoutés pour la vaillante
armée journalistique. Partons pour une grande manifestation d'ampleur nationale pour exprimer le ras-le-bol des Français.
Oui, bah commençons petitement et puis on va la cruche à l'eau, etc. Donc,
et puis là, alors là, c'est autre chose. Mais enfin, ce sont les fiançailles. On voudrait avoir des renseignements sur les fiançailles de Louis-Alphonse de Bourbon.
Eh ben, écoutez, moi, je peux pas en dire plus. Voilà, comme le prince ne me fait pas ses confidences, il m'est très difficile de parler en son nom. Tout ce que j'en ai dit, je l'ai écrit dans un numéro de mon hebdomadaire qui s'appelle Le Légitime. Je crois que c'était dans le numéro 376, il me semble, 376 ou 377, je ne sais plus. Si cet auditeur veut que je le lui envoie, il serait bien gentil de laisser son nom et son adresse au secrétariat, nous n'allons pas le lire, et puis je me ferai un plaisir, que dis-je, un devoir. Bon, ouais. J'exagère, un honneur de le lui envoyer.
Un auditeur vous dit que vous vous trompez à propos de la fonction liturgique du Vendredi Saint dans le missel d'avant 1960. La deuxième partie, les grandes prières catholiques comporte une huitième prière pour la conversion des Juifs. Et c'est Oremus et pro perfidis iudeis. Qui veut dire prions aussi pour les Juifs qui n'ont pas reçu la foi.
Perfides, qui sont passés au travers de la foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la foi.
C'est Jean Maine III en 1960.
Où est-ce que je me trompe là, dans cette remarque d'auditeur ?
Après une intervention de l'historien Jules Isaac qui supprime le mot perfidis pour qu'il ne soit pas entendu au sens le plus mal intentionné
de
juif perfide. Voilà. Le concile n'a donc rien à voir ici, pas que la notion de peuple décide.
Je redis pour l'auditeur, parce qu'il me semble que si un auditeur a mal compris, c'est que beaucoup d'autres ont mal compris. Également. Je connais très bien les prières du Vendredi Saint pour les avoir suffisamment chantées, récitées. Je dis simplement que ces imbéciles de Reuters, venant après ces imbéciles de l'AFP ou ces imbéciles de l'Associated Press, ce sont tous ces gens qui ont de nationalités différentes, ils sortent du même moule, qui est le moule de l'imbécilité congénitale, prétendent que dans le missel, donc au moment de la prière, les grandes prières du Vendredi Saint, il y avait l'expression des juifs peuple déicide. Voilà. Elle n'a jamais figuré dans la liturgie catholique. Ces gens, non seulement sont des imbéciles, mais des calomniateurs. C'est ces gens-là qui vous envoient sur les bûchers, qui vous envoient vous faire pendre au réverbère, vous comprenez ? On ne peut pas dire des choses pareilles. Et quand des gens osent dire des choses aussi infectes, il faut dire ce que c'est. Ce sont des sous-crétins. Voilà, c'est des sous-crétins. Donc les gens de Reuters, celui qui a fait cette dépêche, le crétin de l'AFP qui l'a recopié, et les autres de la société, ce sont des sous-crétins.
Oui, alors cet historien Jules Isaac craignait que mot perfide ne fût interprété dans ce dernier sens. Et alors là, j'ai une réponse pour la question.
Il a raison, à partir du moment où on traduit, évidemment, comme la langue. Le perfidis en latin, c'est stable depuis 2000 ans. Maintenant, quand on commence à traduire, au Moyen-Âge, quand on disait, Oh, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand même, sous Louis XIV, les gens étaient pauvres. Ils mangeaient, lisez la Bruyère, ils mangeaient des racines. C'était la famille, ils mangeaient des racines. Enfin, c'est quoi les racines? C'est tout ce qui pousse sous terre. C'est les carottes, les navets, tout ça. On appelle ça des racines, ça s'appelle des racines. Donc, je vais y aller, qui sont très très bonnes, les racines. Les carottes, c'est bon, les navets, c'est bon.
J'ai
quand
une
même
réponse
bon.
À la question sur le siège de Constantinople et sur l'aide de Venise. Alors, il n'y avait que 3 navires vénitiens à proximité de Constantinople. Affirmation à vérifier, bien sûr, et remerciements. Voilà, et c'est signé.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien l'hypothèse de l'insuffisance de l'aide.
À mon avis, en 1453, oui.
Daniel Amich, c'est peut-être quand même le moment de préciser. Oui. Que cet agenda, qui est un livre.
Qui est un livre
et qu'on pourra acheter même courant 2015.
Qui est un album, je dirais.
Qui est un album.
Album, parce que c'est illustré.
Qui est pleinement agenda, mais pleinement album aussi. Et on peut le commander à Histoire et Mémoire.
Alors, Histoire et Mémoire.
88 Avenue des Ternes, 75 017 Paris.
Oui. Il y a peut-être un téléphone.
Téléphone 01 40 54 01 70.
Là,
je répète, 88 Avenue des Ternes, 75 017 Paris, 01 40 54 01 70, et qu'il est au prix de 34 € port compris.
Alors, je vais vous dire, 34 €
port compris.
Je ne sais pas comment vous faites ça pour 34 €. Parce que c'est relié. Il y a tranche-file. C'est le petit bourrelet là, c'est relié dur, c'est un truc avec un, ici il y a un petit, comment ça s'appelle, un marque-page.
Il y a un signet.
Un voilà. Petit signet marque-page.
C'est ce qu'on appelle couverture cartonnée, pelliculée, reliée avec signet.
Alors, vous
voyez, j'ai appris plein de choses.
Cahiers cousus, collés. Ils sont cousus les cahiers, c'est des cahiers, c'est magnifique, c'est tout en colichromie.
Alors,
vous avez de la couleur partout, sur toutes les pages, il n'y a pas une page, il n'y a pas une couleur.
Il y a une citation par semaine de grands auteurs.
Une citation de grands auteurs, des reproductions magnifiques, des arts. Vraiment, c'est un. Pour quelqu'un qui s'intéresserait à Venise et qui n'aurait rien sur Venise, pour commencer sa bibliothèque sur Venise, faut prendre ça. C'est, je dirais que c'est ça remplace beaucoup de choses. C'est la première, je sais pas, qu'est-ce que je voulais, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre, Madame de Staël, l'air de Venise, la vie qu'on y mène est singulièrement propre à bercer l'âme d'espérance. C'est joli,
Madame
de Staël. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme alors il y a des citations à tous les jours. Vous avez des. Attends, je suis en train de penser.
Il y a 53 citations.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Chateaubriand, je cherchais en me réveillant pourquoi j'aimais tant Venise. Quand tout à coup, je me suis souvenu que j'étais en Bretagne. Bon, c'est quand même, c'est extraordinaire. Bon, c'est extraordinaire.
Ça, c'est l'aspect climat, port, eau.
Jean Giono, à Venise, on attrape le bonheur comme dans d'autres. On attrape la peste.
Ah, je l'aime beaucoup celle-là.
C'est, quand même, c'est très beau. Bon. Je vous fais ça avec l'accent aussi, mais c'est plus rigolo. Hein. Mais voilà, il y a même une citation de Jean d'Ormesson. Bon, ben voilà, Jean d'Ormesson, le pauvre, qu'est-ce que
c'est. Un grand amoureux de Venise.
Oui, au pire, il est un grand amoureux de Giscard d'Estaing. Mais enfin, Poisson, bon. Enfin voilà, donc il y a des Suarez, tous les grands poètes français, les grands auteurs français, et d'ailleurs, et quelques Italiens aussi, Allemands aussi, M. Wagner aussi.
Wagner est mort à Venise.
Il
a passé au moins 2 ans de sa vie. Si on met tous ses séjours bout à bout.
Plus, c'est là où il a passé le plus de
deux
temps.
2 ans ou 2 ans et demi à Venise, oui.
Mais comment quand on vit...
Il est mort au palais Vendramine, sur le Grand Canal.
Ah oui.
C'est fameux.
C'est curieux quand même pour un... Quand on vit dans... Disons, dans cette splendeur légère, toute méditerranéenne et vénitienne, comment est-ce qu'on peut faire une musique aussi... Ça vous surprend pas, ça? Non.
Oui, mais bon, il aimait Venise, il y trouvait une source d'inspiration. Il disait que le chant des gondoliers avait joué un grand rôle quand il avait écrit le deuxième acte de Tristan et Iseult. Mais enfin, bon, je ne le compte pas dans les musiciens vénitiens.
Bon, pas dire de mal de.
Autrement, c'est
un grand musicien.
Vivaldi, mais... Albinoni,
ah, oui,
Cimarosa,
oui.
Galuppi.
Oui.
Etc. Tout ça, ce sont des musiciens. Tout cela, ce sont des musiciens vénitiens.
C'est une vraie merveille. Alors moi, bravo. Hein, dites donc, mais vous savez que vous êtes vraiment incollable sur Venise. Alors, magnifique trick. Alors, combien ça vous avez dit
34 € port compris.
Bon, enfin, je sais pas comment vous faites pour gagner
port compris.
Parce que ça vaut plus que ça, quoi. Ça vaut. Enfin bon, hein, Jacqueline. Vous mettriez combien de sous pour une belle chose comme ça? Regardez, c'est pas un beau cadeau à offrir, ça?
Oui, absolument. Mais je ne sais pas. Le prix, je ne connais pas.
Mais je vais vous dire 34 euros.
Ah, pardon, pardon.
Ça vous semble cher ? Moi, ça me semble
non,
bon marché.
Non, non, non. Parce que c'est très beau. Et puis, il y a plein d'histoires. Enfin, je veux dire, ça joint l'utile à l'agréable.
Mais ne le regardez pas avec les yeux, avec vos yeux accrochés, là, parce que je suis sûr que vous allez me le piquer avant la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore des petits messages ?
Écoutez, je ne veux rien avoir.
Oui.
Une bonne nouvelle.
Non. Non. Ben non, alors c'est non, il n'y a pas de message, il n'y a pas de message.
Bon, il y a
alors,
un autre joli petit agenda.
Oui, on va en parler tout de suite, mais je voudrais aussi, en attendant que juste pour terminer sur un petit point d'histoire, vous dites, en fait, Venise va s'arrêter quand en fait, véritablement, la puissance vénitienne s'arrête avec quoi? Avec Bonaparte ou Napoléon?
Avec Bonaparte en 1797, c'est vraiment la chute de Venise. C'est-à-dire que le Sénat vote sa disparition.
Sa disparition.
Une sorte de suicide, sans combat. Mais en fait, depuis 1700 environ, Venise n'avait plus d'ambition particulière. Venise a survécu par les arts. C'est-à-dire, c'est la peinture, la musique, l'architecture. Mais c'est là qu'elle exprime désormais sa puissance. Le commerce essaye toujours de vivre plus ou moins bien, mais c'est vraiment dans les arts que Venise se réalise à cette époque-là. Et je pense que la peinture vénitienne, quand on fait une brève liste, je ne vois pas qui peut entrer en concurrence avec elle, parce que c'est Carpaccio, c'est les Bellini, Carpaccio, Giorgione, Titien, Véronèse, Tintoret, Canaletto, Guardi, Tiepolo, et je pourrais en citer bien d'autres.
Ça fait beaucoup. Et ce n'est qu'une toute petite partie de l'Italie. Hein. Enfin,
ouais, c'est bien sûr.
Quand même, quel pays magnifique, pays béni des dieux. Bien, écoutez, alors merci beaucoup, cher François Crécy, pour avoir été le maître d'œuvre de cet agenda que j'appelle moi album agenda Venise 2004, qui est toujours disponible. Faut se dépêcher parce que ça durera peut-être moins longtemps que les impôts quand même. Donc pour le commander, c'est donc édition Histoire et Mémoire, 88 Avenue des Ternes, 75-017 Paris. Le téléphone de cette entreprise, c'est donc le 01 40 54 01 70. Je redis 01 40 54 01 70. L'ouvrage, vous pouvez l'acheter par correspondance. Il est à 34 euros port compris.
Et ils sont envoyés dans un délai très bref. C'est ça que je voulais dire. Oui, envoyé. Non, c'est important. Je ne veux pas oublier.
Non, les gens ne vont pas attendre 40 ans pour l'avoir.
Et c'est envoyé en courrier suivi.
En suivi. Donc, comme ça, vous êtes sûr de.
En courrier suivi.
Vous ne le volera pas. Oui. Enfin, bon. Espérons.
Et puis, dans les bonnes librairies, on le trouve aussi, bien sûr.
Alors, chez Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, Paris 7e, France Livre.
Hams et Racine à Versailles.
Hams et Racine pour nos amis de Versailles, et puis on peut le commander à son libraire.
Bien
on
sûr.
On vous le livrera. Alors, je me tourne vers la technique, cher Jocelyn. Il nous reste encore 7 petites minutes. Donc, il va me falloir encore 2 minutes pour une petite friandise que je veux laisser à mes auditeurs. Il nous reste donc 4 minutes et demie pour. Et vous, il faut absolument lire le petit message des conférences Paul Bilaire, parce que sans quoi on va encore oublier,
ça va très
mal. Alors, donc, encore un autre petit agenda. Celui-là est un agenda de poche. Celui-là, on peut écrire dessus. Ça fait pas mal au cœur.
Très agenda joliment présenté, qui est l'agenda Clovis 2004, avec des textes qui sont choisis et présentés par Benoît Mancheron.
Comme toujours, c'est un grand travailleur devant l'Éternel.
Il faut savoir qu'en 2004, la fête de Saint-Jacques, le majeur bien sûr, tombe le 25 juillet.
Donc c'est le jour de la fête.
Et donc c'est l'année sainte compostellane.
Oui,
c'est-à-dire à chaque fois que la fête de Saint-Jacques tombe un dimanche, c'est une année sainte compostellane. D'où le thème de cet agenda Clovis 2004, Saint-Jacques, année sainte compostellane.
Très bon petit travail.
Avec une douzaine de petits chapitres très intéressants faits par Benoît Mancheron.
Oui, c'est très bien. C'est
et
très
puis
bien.
Une citation de Saint-Bernard pour chaque semaine.
Pour chaque semaine, c'est très très bien
donc,
fait.
Donc on peut le commander à Clovis, bien sûr. On peut le trouver dans les librairies, dans les bonnes librairies, mais on peut le commander à Clovis aussi. Boîte postale 88 91 152 Étampes, Cedex.
Voilà, donc on le trouve aussi leur librairie France Livre, à Duquesne Diffusion et partout. Alors ça vaut combien cette petite objet-là?
Alors ça vaut 9,50 €. Et si on en commande 4, 32 euros.
Bon, c'est bien. Alors, c'est plastique. Il y a une petite couverture en plastique dorée et tout. C'est bien. Moi, j'ai déjà je l'utilise. Cette année, j'ai déjà commencé à noter mes rendez-vous pour l'année prochaine.
déjà. J'ai quelqu'un de très demandé, hein, donc je suis obligé de noter, hein, parce que moi, je suis très demandé, mais j'ai pas de mémoire. Alors, donc, alors vite, l'annonce.
Oui, alors les rencontres de Paul Biller, donc le samedi 3 janvier, André Chénier, rendez-vous à 15h, café Le Bourbon, 1 place du Palais Bourbon, métro Assemblée nationale.
Un Bourbon, sinon rien.
Et puis aussi le samedi 10 janvier, c'est l'affaire du collier de la reine. Rendez-vous à 15h, café Le Bourbon également. 1 place du Palais Bourbon, métro Assemblée nationale.
Très bien. Alors.
Et puis, un auditeur qui nous dit en hommage à Sylvie Dervin, vous pourriez peut-être citer son beau roman La Vénitienne, paru il y a 21 ans.
Eh ben, oui, bien sûr.
Moi, je ne l'ai pas lu. Donc, alors, je suis désolé.
Bien sûr. Merci à l'auditeur ou l'auditrice.
Voilà. Oui, on nous demande aussi si Thomas Mann a séjourné à Venise.
Thomas Mann a séjourné à Venise, oui, bien sûr, mais spécialement au Lido. Au Lido, c'est-à-dire sur cette bande, sur cordon littoral qui sépare la lagune de...
J'ai eu peur. Bon, enfin voilà, oui. Alors donc, dernier message, là, allons-y. Une
question, peut-on évoquer...
Non, on n'a plus le temps, cher auditeur. Non, parce que maintenant, on va laisser la parole... On va laisser la parole à Cécilia
Dem. Et son essai sur Venise. Ippolito Nievo et son essai sur Venise. Venise, liberté de l'Italie. Liberté de l'Italie. Je ne connais pas du tout.
Il y a la pop à répondre. Bon, alors donc, on va laisser la parole dans quelques minutes à Cécilia Dem, qui va vous entretenir ce soir du thème des jardins médiévaux, encore une splendeur de l'Occident, l'Occident chrétien. Alors donc, merci encore, cher François de Crécy, pour cette présentation de l'agenda album ou l'album agenda Venise 2004 préfacé par Michel Mort que vous avez réalisé avec la complicité de Benoît Mancheron.
Merci à vous, Daniel Amiche.
Non, mais c'est tout à fait normal. Je rappelle donc c'est édition Histoire et Mémoire, 88 avenue des Ternes, Paris 17e, le téléphone 01 40 54 01 70 01 40 54 01 70, 34 €, Franco de Port. Je rappelle que nous avons reçu également en première partie David Foubert, qui est journaliste directeur de la revue Les Épées, et puis dont évidemment, je ne retrouve pas. Je vais pour retrouver l'adresse. Si voilà, Les Épées. Alors, Les Épées, 4 squares de la côte Saint-Thibault, 92 270 Bois-Colombes. Et puis également, nous avons reçu Valérie Rollin par téléphone, et je vous renvoie aux articles qu'elle a écrits sur les questions du Moyen-Orient, des chrétiens du Moyen-Orient, dans Histoire du Christianisme Magazine, en kiosque actuellement, Valeurs Actuelles en kiosque, et Spectacle du Monde à paraître. Pour terminer cette soirée, je demanderai à Jocelyn s'il avait la gentillesse de nous passer sur le disque qui s'appelle La Vaillante Armée, qu'il a dans sa machine, La Plage 26. Je crois qu'on ne peut pas mieux terminer cette émission de Noël que par un Je vous salue Marie, et je salue tous les auditeurs. Je leur remercie beaucoup, je leur souhaite un très 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 joyeux Noël, et puis on se retrouvera pour la vigile du jour de l'an, ce qui est quand même moins drôle. D'ici là, bien sûr, que Dieu et la Sainte Vierge Marie nous gardent tous. Thank you.
Alors, nous disons joyeux Noël et bonsoir aux auditeurs dans une situation particulière parce que nous préenregistrons le 11 décembre au matin. Bonjour donc Michel Bilimoff, merci d'avoir répondu à ce rendez-vous matinal. Vous êtes venu dans la brume comme tout le monde et j'ai quelques petites annonces à faire. Alors d'abord je vous présente, ingénieur de recherche au CNRS, jardinière, passionnée par les plantes, elle nous vient avec deux très beaux livres dont l'un va faire l'objet de cette chronique. Alors, je voulais donner des nouvelles de notre exposition Noël Enchantée, qui a été un très très gros succès. Les visiteurs ont été très nombreux. Nous avons, paraît-il, un très beau chèque à remettre à la Fondation Claude Pompidou. Et je crois savoir que beaucoup d'auditeurs ont eu la gentillesse de se déplacer et ont été très heureux de se mettre déjà dans l'ambiance de Noël grâce à tous ces décors. Je rappelle une autre exposition. Il n'y a pas grand-chose en ce moment puisque nous approchons des vacances de Noël, mais celle-ci, elle intéresse aussi les enfants, donc elle est très importante. La boussole et l'orchidée, dont j'avais déjà parlé, qui se tient au Musée des Arts et Métiers et qui, je le rappelle, célèbre le bicentenaire de l'expédition de Humboldt et Bonpland. Alors, il y a une partie, elle joue sur deux tableaux, le scientifique avec l'instrumentation dont elle disposait et dont on a hérité maintenant pour nos explorations futures et actuelles, et puis les plantes. Et Bonpland a rapporté plus de 3500 spécimens de plantes, des animaux, et vraiment, c'est à voir. Et il y a des ateliers pour les enfants. Donc, je donne un numéro de téléphone où on peut se renseigner pour savoir comment participer à ces ateliers. Le tarif pour une séance est de 6,50 €, alors que l'entrée pour l'exposition seule est de 3 €. Alors, pour les ateliers visites découvertes et visites guidées pour les enfants de 5 à 12 ans, c'est le 01 53 01 82 75. 01 53 01 82 75. Et je signale qu'au passage, une petite visite dans les galeries du Musée des Arts et Métiers est aussi extrêmement instructif pour eux. Et puis pour les grandes personnes, il y a aussi des conférences et on se renseigne au même numéro de téléphone. Donc ça se tient au Musée des Arts et Métiers, rue Réaumur. L'accès est assez facile pour tout le monde. C'est vraiment, elle durera jusqu'au mois de juin, mais elle est vraiment très très intéressante. Et puis puisque nous parlons des enfants et que il faut les occuper parce que tout le monde ne part pas pour la montagne, j'ai un très joli petit livre, 30 cabanes à oiseaux à réaliser soi-même, d'Anne Valéry. Alors des très simples, des compliqués, des farfelus, et qu'ils peuvent vraiment réaliser soit tout seul, soit avec l'aide des parents, et qu'on peut mettre, même si on n'a pas de jardin, sur un rebord de fenêtre. Il y a quelques notions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, ne pas mettre d'alcool dans l'eau sous prétexte que ça l'empêcherait de geler. Il faut la renouveler si elle gèle. Et puis, là, il y a la fameuse recette des boules de graines et de graisse dont s'y friandent les mésanges, entre autres. Ça permet de très, très belles observations. Donc, 30 cabanes à oiseaux d'Anne Valéry avec des photos de Gilles Plagnol. C'est publié par Flammarion, et ça coûte 15 €. Et j'avoue que c'est une très très bonne activité pour cette époque de l'année où nos petits amis les oiseaux ont parfois grand faim. Et puis nous entrons dans notre sujet qui est le jardin médiéval. Alors j'ai quelques livres à présenter avant d'en venir à ceux de Michel Bilimoff. D'abord un qui est assez amusant, sur le motif, le jardin médiéval. Sur le motif parce qu'il s'agit de modèles de broderie, de points de croix, tous tirés d'œuvres d'art médiéval. Entre autres, on a la fameuse tapisserie, la dame à la licorne en couverture. Alors il est de Claude Fauque et de Marie-Noël Bayard, dans la collection Art d'intérieur chez Solar, et il y a un certain nombre d'ouvrages très amusants à faire, dont certains très simples, et qui reprennent les motifs de certains d'ailleurs du livre dont nous allons parler avec Michel Bilimoff. Je le trouve très sympathique pour les dames qui se livrent aux travaux d'aiguille, ou peut-être pour en retrouver le plaisir. Et il y a aussi quand même une petite partie historique sur toutes les œuvres d'art présentées. Alors donc, chez Solar, à 17 €, le jardin médiéval sur le motif. Ensuite, au temps des jardins médiévaux, les saisons au prieuré d'Orsan. Sonia Lesseau, nos auditeurs connaissent déjà le prieuré d'Orsan dont nous avons parlé à plusieurs reprises, qui est la recréation d'un jardin médiéval tel qu'on le ressent maintenant. On n'est pas assuré, Michel Bilimov, qu'il soit absolument identique. Non. Mais c'est l'inspiration.
Oui,
hein,
c'est l'inspiration qui a quelques éléments qu'on a encore.
Voilà. C'est ouais. ça. Et qui a actuellement un succès fou, je crois, parce que nous avons besoin de nos racines. Hein, Alors là, il s'appuie sur le temps. C'est vraiment le jardin. Alors ce jardin-là, mais n'importe lequel, au fil du temps, avec les mois des calendriers. Et alors, j'ai une chose que j'apprécie beaucoup personnellement, c'est qu'on a gardé l'ancien ordo. Donc les 10 tons sont toujours valables. Quand on parle des saintes glaces, c'est vraiment les 3 saintes glaces du mois de mai. Quand on a la Saint-Benoît, c'est vraiment au 21 mars. L'épiphanie, vraiment le 6 mars. Et quand on parle de la Saint-Médard avec un 10 ton qui correspond à la Saint-Médard, puisque ça rime, il y a toujours une petite rime, eh bien, c'est le bon saint. Sinon, utiliser le nouveau calendrier nous empêche totalement de profiter de toute cette richesse. Alors là aussi, des illustrations tirées de livres d'heures, et au bout, alors toute l'histoire du calendrier à travers les âges, le calendrier avec les travaux des champs, et donc plus particulièrement dans un jardin médiéval, et puis une dizaine de pages de notes personnelles pour les jardiniers chevronnés et soigneux. Et alors donc, il est publié au garde-temps, au temps des jardins médiévaux, de Sonia Lesseau, et il coûte 24 euros. Enfin, j'ai converti parce que j'avais le prix encore en francs, mais je pense que c'est 23 ou 24 euros, à quelque chose près. Alors maintenant, le livre d'une de vos amies, oui. Marie-Thérèse Gousset, Jardins médiévaux en France, itinéraire de découverte. Alors, Marie-Thérèse Gousset recense un très grand nombre de jardins médiévaux à travers la France, dont certains connus, dont d'autres moins connus, et nous les présente. Alors elle aussi, il y a une partie historique pour chaque style de jardin, parce qu'elle les groupe, par exemple, les jardins d'abbaye, les jardins seigneuriaux, les jardins citadins, les jardins de campagne. Elle présente pour chacun d'eux les caractéristiques. Il y a de très belles photos d'Hervé Bonnet. Et il y a une carte. Et elle indique aussi, ce qui est très précieux, l'adresse de chaque jardin, le numéro de téléphone où on peut se renseigner, et les heures, les jours d'ouverture, car c'est très variable. Je suppose que ça dépend un peu du climat, que les jardins méditerranéens sont ouverts plus longtemps que les jardins alsaciens, par exemple.
Oui, oui.
Et alors, oui, voilà.
Et elle est particulièrement compétente parce qu'elle travaille à la Bibliothèque nationale sur les manuscrits.
Oui, c'est elle qui est responsable.
C'est elle qui a trouvé, par exemple, les plantes pour le jardin de Cluny, qui a donné des indications d'après les tapisseries qui sont à Cluny. Elle connaît très, très bien la question et c'est particulièrement intéressant.
Jardin qui a été recréé, si l'on peut dire, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans maintenant.
Il y a, oui, 2 ans, je
dont
pense.
Dont il faudra que nous parlions, parce que je pense que ça aussi est un travail très intéressant.
Oui,
et alors, elle publie, elle aussi, beaucoup de marches que nous allons retrouver dans le vôtre, qui viennent des grandes sœurs de la Reine de Bretagne, de Anne de Bretagne.
Anne de Bretagne.
Alors, ce livre, donc, est publié chez Ouest France, lui aussi, comme le vôtre, et il coûte 15 euros, ce qui est, je trouve, un tarif très raisonnable. Ça met à la portée d'un peu tout le monde, c'est très belle chose. Alors, nous en arrivons au vôtre. Vous nous proposez une promenade dans des jardins disparus, en presque sous-titre, les plantes du Moyen-Âge après les grandes heures d'Anne de Bretagne.
Oui.
Alors, comment avez-vous... D'abord, que sont les grandes heures?
Alors, les grandes heures d'Anne de Bretagne, que j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir en main. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois. C'est un très, très beau manuscrit, un des plus beaux de la Bibliothèque nationale, qui est un livre d'heures, est un livre de prières. C'est les prières ordinaires qu'on faisait au fil de la journée, pour les fêtes des saints, pour et la reine Anne de Bretagne, qui était particulièrement pieuse et qui passait des heures en oraison par jour, avait plusieurs livres d'heures, mais celui-ci est le plus beau de ceux qui sont conservés. Il était au cabinet royal, Louis XIV l'avait fait mettre au cabinet des curiosités de Versailles. Et il est resté à la Bibliothèque royale jusqu'en 1795 et ensuite à la Bibliothèque nationale. Et tellement intéressant que Jussieu, le grand botaniste, Louis XV l'avait prêté à Jussieu et Jussieu trouvait que les plantes étaient tellement réaliste que pour lui, elle ne pouvait être que d'après nature, ce qui est certainement vrai. Et donc, il a repris les appellations, enfin, on aura l'occasion d'en parler, parce que dans ce manuscrit, il y a 337 représentations de plantes, ce qui est unique. Il y a, à la même époque, du même atelier, d'autres manuscrits qui ont également des représentations de plantes à peu près similaires, mais en beaucoup moins grand nombre. Là, il y en a 337 peintes au vif, comme on disait, avec des insectes qui bruissent. On a l'impression de voir les plantes.
Oui, et puis alors, il y a aussi les mois de l'année avec les travaux.
Il y a les travaux, il y a aussi beaucoup plus classiques, parce que les plantes, il y avait évidemment des manuscrits de botanique où il y avait les plantes représentées, mais dans ces cas-là, les plantes étaient représentées avec les racines. Par exemple, pour un arbre fruitier, il y avait les fleurs, les fruits, alors que là, jamais. Observé.
Alors, un petit mot sur Bourdichon.
Alors, Bourdichon était vraiment le peintre royal par excellence parce que il avait été engagé par Louis XI comme peintre royal. À la mort de Louis XI, il est resté peintre de Charles VIII, son fils, donc d'Anne de Bretagne qui était l'épouse de Charles VIII. À la mort de Charles VIII, il est resté peintre sous le règne de Louis XII qui lui a succédé. Et ensuite, à la mort de Louis XII et d'Anne de Bretagne, il a été peintre sous François Ier et on pense même qu'il a participé au dessin du camp de Dradore.
En effet, oui. Et il a eu une amitié aussi avec...
amitié qui, il me semble, a eu particulièrement d'importance pour ce manuscrit. Louis XI avait fait venir un moine calabrais qui vivait près du château de Plessis-les-Tours, qui vivait en ermite au milieu des jardins. Et la reine Anne le connaissait bien, puisqu'il a été le parrain de ses enfants. Elle avait une vénération pour lui, et Bourdichon le connaissait aussi, puisque d'après des documents du procès en canonisation de ce moine qui est devenu Saint François de Paule, Bourdichon dit qu'il partait herboriser avec lui. Donc, il partageait avec Anne de Bretagne et le peintre et Saint François de Paule cet amour de la nature pour elle-même. Et on le voit dans le manuscrit parce que les plantes sont toutes représentées sur un fond d'or.
Oui, ça c'est merveilleux. Les plantes les plus humbles, la sainte ortie et tout.
Voilà. Alors, évidemment, ces 337 plantes, il y en a que on garde dans les jardins avec beaucoup d'attention, comme les roses, les lys, toutes ces plantes. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Par exemple, il y a 7 sortes de chardons, 6 sortes de lamiers ou d'orties, des plantes parmi les plus humbles qui sont toutes représentées dans les mêmes dimensions, sur le même fond d'or et parfois beaucoup plus souvent et sous différents aspects, beaucoup plus souvent que les plantes qui sont ou bien des plantes nourricières ou bien des plantes ornementales. C'est ça qui, c'est une des choses qui font la particularité extraordinaire de ce manuscrit.
Théologiquement, c'est presque la vérité, puisque la plus humble créature a autant de
d'importance
au regard de Dieu, Bourdichon a su comprendre ça.
Oui, mais il faut ajouter aussi que, contrairement à ce qu'on a longtemps pratiqué, c'est-à-dire qu'on arrachait toutes ces mauvaises herbes, le plantain, le fumeterre, les orties, maintenant on y revient un petit peu. Il y a tout de même une sorte de respect qui revient revient peu à peu. Je pense que c'est une extrêmement bonne chose. Mais à l'époque, pratiquement ces 337 plantes sont toutes médicinales. Alors, parfois, elles le sont extrêmement. Par exemple, la bétoine, cette toute petite plante qu'on arrache sans même y faire attention, je suis sûre qu'on ne la reconnaîtrait pas. était censée soigner 47 maladies. La sauge, à l'école de Salerne, au XIIe siècle, l'école d'où vient l'expression « les bonnes femmes », c'est-à-dire ces femmes médecins qui étaient de bonne réputation et que les médecins, par la suite, ont dénigré. Vraiment, avec mépris. Mais ils disaient qu'avec la sauge, on ne pouvait pas mourir, si ce n'est que la mort est plus forte que toutes les maladies, mais la sauge était censée vraiment tout soigner. Et donc, il y a aussi dans ce manuscrit tous les légumes qui étaient consommés, même des plus bizarres. Par exemple, l'ornithogale.
L'ornithogale.
Qui est maintenant reconnue comme une plante toxique.
En plus, était une si ravissante fleur pour les bouquets.
Très jolie, c'est une jolie petite fleur blanche, mais elle était consommée. Et le plantain, alors je reviens au plantain, parce qu'il est représenté. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée, parce que dans mon jardin, le plantain, je l'arrachais quand il était parmi les herbes. Mais le plantain est représenté deux fois dans les Grandes Sœurs. Et alors, j'ai un extrait que je voudrais signaler.
Bien volontiers.
Le plantain, d'abord, était consommé comme légumes, en salade ou cuit, comme l'ortie, comme la bourrache, comme de nombreuses plantes que maintenant on n'aurait jamais l'idée de consommer.
La bourrache, on y revient.
On y revient, oui. L'ortie aussi, d'ailleurs. Mais le plantain, pas encore à ma connaissance. Alors, pour le plantain, le plantain avait été associé les Romains au dieu Mars, le guerrier, parce que c'était une plante qui était considérée comme une plante chaude. Vous savez, on va pas entrer dans ces théories, mais les plantes étaient classées en froides, chaudes, humides, sèches, qui étaient censées contrebalancer les déficiences dans les complexions humaines. Voilà. Alors, donc, le plantain était particulièrement désigné pour guérir les maladies masculines, parce qu'il était associé. Mais il servait aussi en élixir contre les piqûres de scorpions ou quelque autre vermine, comme on dit, ou en traitement de la goutte, ses feuilles contre les douleurs, le jus contre les rhumatismes, les racines mêlées à du miel pour guérir les fractures, ses qualités cicatrisantes, apaisantes pour les piqûres et brûlures anti-venin ophtalmiques. C'est vrai que maintenant, le plantain est encore reconnu pour ses qualités ophtalmiques, c'est pour les yeux bleus, mais là, c'est pour les yeux sombres seulement.
Il faut choisir selon ça.
Absolument, il y a même le choix. Si vous avez les yeux sombres, vous preniez du plantain, et autrement, les yeux bleus, c'est le bleuet. Oui. Et en plus, le nom latin du plantain, c'est plantago. Ça venait de la croyance qu'il suffisait de mettre du plantain à l'intérieur de sa chaussure pour pouvoir marcher vite, courir sans problème. Ça protégeait de toute souffrance des pieds.
Les danseurs devraient redécouvrir ça.
Les coureurs de marathon. Parce qu'il fait courir plus vite, ça me paraît-il. Alors, c'est juste un petit exemple pour montrer qu'une plante qui est maintenant... Si maintenant, on pense que moi, je me souviens, quand j'étais petite fille, ma grand-mère disait, quand je me faisais piquer par des orties ou pour... De frotter avec de la feuille de plantain.
Bon. Ah oui, quand même. Il y a aussi la... comment s'appelle cette plante à fleurs jaunes contre les verrues, là?
La Kélidouane.
La Kélidouane, oui. Les gens croient encore à ça. Moi, j'en ai encore vu, là. Il y a pas longtemps.
Oui, enlève les verrues. Alors, là, la Kélidouane, elle était plus particulièrement parce qu'il y avait la théorie qu'on a appelée un petit peu plus tard, c'est Paracelse dans le même siècle. Oui, parce que là, faut préciser que on ne l'a pas dit, mais ce manuscrit a été fait entre 1503 et 1508. Donc, totalement contemporain, par exemple, d'Albrecht Dürer, qui en 1503 avait lui aussi fait ce grand morceau de prairie qui est très connu, avec des plantes extrêmement réalistes aussi. C'était un courant nouveau venait. Mais c'est contemporain de Jérôme Bosch, contemporain de Dürer, de toutes sortes de grands peintres. Il y a vraiment tout un courant de réalisme à cette époque.
Et en dehors de ce grand livre d'heures pour la reine Anne, qu'a-t-il fait d'autre, Bourdichon?
Alors, Bourdichon a fait d'autres manuscrits, lui et son atelier, hein, bien sûr, parce que c'était tout de même un travail immense. Il y a d'autres manuscrits qui sont assez semblables à celui-ci. Ce sont des livres d'heures qui ont également dans les marges des plantes très réalistes, à peu près semblables à celles-là. La seule différence, c'est qu'elles sont en nombre bien inférieur. Alors, il y en a, par exemple, à la collection Rothschild à Waddesdon Manor, en Angleterre. Il y en a aux États-Unis. Il y en a à la British Library. Autrement, il a fait d'autres manuscrits qui sont dans différents... dont à la Bibliothèque Nationale. Et on sait qu'il a fait des quantités de tableaux, de dessins, parce qu'un peintre royal était chargé de toutes sortes de travaux. Il reste un triptyque qui est au musée de Naples, Capodimonte.
Alors, on n'a pas parlé des insectes et qui décorent toutes ces plantes, parce que nous, on nous intéresse aux plantes, mais il y a aussi des choses absolument merveilleuses.
Ah oui.
Et puis, alors, il faut dire que donc vous nous conviez à une promenade parmi ces jardins disparus. Alors, vous avez choisi les bois, les vignes, les jardins de ville, les plates-bandes, les potagers. Chacun va chercher ce qu'il préfère au début. On peut le feuilleter dans n'importe quel sens.
Oui, parce que dans le manuscrit, les plantes sont dans un ordre qui ne respecte ni les saisons, ni les genres, ni les... Par exemple, il peut y avoir une branche de pommier à côté d'une ortie, la page d'à côté. Et quand j'ai eu ce livre en main, moi j'avais un jardin, que j'étais une jardinière récente et passionnée,
soumise
au rythme des saisons et aux difficultés d'adaptation des plantes. Alors, on a quand même quelques éléments sur les jardins à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est une époque charnière, ce n'est plus exactement le Moyen-Âge avec les jardins qu'on connaît très bien, qu'on connaît par les miniatures de manuscrits, par des descriptions. Ça n'est pas encore le jardin italien somptueux comme on l'a connu par la suite, bien que le jardin de Blois, par exemple, où était la reine Anne, ait été dessiné par Don Pacello, qui était un jardinier que Charles VIII avait fait venir d'Italie.
En effet. Alors, on va dire que d'abord, ce livre s'intitule donc « Promenade dans des jardins disparus, les plantes au Moyen-Âge d'après les grandes heures d'Anne de Bretagne » de Michel Bilimoff. Il est publié aux éditions Ouest France, il coûte 30 euros. Et l'un des chapitres de ce livre, « Les plantes magiques », vous a inspiré un autre ouvrage dont vous reviendrez parler, mais on va quand même le citer.
Oui, c'est Enquête sur les plantes magiques, parce que j'ai découvert des choses extraordinaires. Alors évidemment, comme tout le monde, je connaissais le trèfle à quatre feuilles, les porte-bonheur de ce genre, mais j'ai découvert par exemple qu'on croyait que les graines de fougère rendaient invisibles, par exemple. Et c'était une croyance qui était tellement ancrée que les évêques du concile de Ferrare en 1612 ont été obligés de se fâcher et d'interdire la récolte des graines de fougère. Oui, absolument. On pensait que le millepertuis éloignait les démons. Toutes les plantes.
J'en ai fait usage avec de mes filles parce qu'elle était insupportable et j'avais ramassé du millepertuis à la nuit de la Saint-Jean. Elle lui a dit, tu vois, ça c'est un chasse-diable.
Oui.
Alors quand j'ai essayé, elle était tellement terrorisée que j'ai arrêté parce que elle avait vraiment peur.
J'ai dit, complètement. Oui,
oui.
Mais je crois, enfin bon, on reviendra une autre fois sur les plantes magiques.
Je pense qu'il y a beaucoup à dire.
Il y a beaucoup à dire. Oui. Et alors, j'ai découvert des choses extraordinaires, vraiment. Alors, bon, et curieusement, pas curieusement, parce que la reine Anne n'était pas apparemment une adepte de la sorcellerie, certainement pas. C'était une reine pieuse. Mais en revanche, il n'y a pas la mandragore, ça c'est sûr, mais il y a le succès d'année, si je peux dire, de la mandragore, la brionne qui était nommée navet du diable, qui ressemblait un peu à la mandragore parce qu'elle avait des racines bifides, vaguement humanoïdes. Voilà.
Alors, donc, ce livre s'appelle, lui, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui parce que j'ai une véritable bibliothèque.
Oui. Enquête sur les plantes magiques.
Michel Bilimoff, également chez West France, à 15 euros. Oui. Et bon, nos auditeurs peuvent déjà se le procurer, mais vous reviendrez en parler. Nous parlerons des plantes magiques
avec
à ce moment-là.
Avec plaisir.
Parce que j'ai autre chose aussi qui recouvre plus ou moins avec des recettes et tout, très amusante. Alors, nous allons dire au revoir aux auditeurs. Nous souhaitons un très, très joyeux Noël avec un beau sapin. Hein, ils savent qu'il faut décorer un très beau sapin. Et je leur donne rendez-vous bien l'année prochaine. Je ne sais pas encore exactement à quelle date. Et je leur souhaite de commencer l'année 2004 du mieux possible. Voilà, merci beaucoup Hélène Bilimoff de cet entretien passionnant et à bientôt.
Merci et joyeux Noël.
Merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becketch, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Lovenbruck. Une émission préenregistrée dans sa dernière demi-heure le 11 décembre 2003 et diffusée pour la première fois mercredi 24 décembre 2003 de 18h à 21h, puis jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn et Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures d'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ce libre journal de Serge de Becketch sera rediffusé pour la dernière fois tout à l'heure à 7h30.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie.
Bienvenue à tous, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 4h56. Dans quelques instants, vous découvrirez le programme ainsi que la météo de ce jour de Noël, puis nous diffuserons une heure de musique classique.
Ranzivica, uftelik zara yel yerka
harcamana Hayastani forkiz yekelen amak Ganumenk barov kuşan aktarov Arnum suru hurpader asmidaş Kıspasem mezi Arnum suru hurpader asmidaş Kıspasem mezi Düşmanım estevet can fidanım Haytandan amatan tesav zorucu Ben çeng uzum azat kam ki bernucun Uhtelen karvel hacir ol mernel Hamos va zengor mi ay zengokka hayim pergucun Amos va zengor mi ay zengokka hayim pergucun Aşkala gavarum ayn bader azmi Avelime sarsap gires teşnamun Hayt zeytuna haftez vaçar gazanin Geçen zeytuna xerof zasuna Ang murat zvana bahta vororen Parsan kayucan Hayt zeytuna haftez Bacar gazani geçen zeytuna Sardar abada umusalır an herosa martı Arsan kayutya
C'était Men Can Galiets Sinvorek, interprété par Ovig Badalian. Et voici le programme de ce jour. À 7h30, nous rediffuserons le libre journal de Serge de Beketch d'hier soir. À 10h45, vous découvrirez le livre du jour, Les Trésors en Poche, émission d'Anne Brassier. À midi, nous diffuserons le libre journal des idées politiques, dirigé par Henri de Lesquin. Cet après-midi, à 14h, rediffusion du livre du jour, Les Trésors en Poche, l'émission d'Anne Brassier de ce matin. À 16h, c'est le libre journal des idées politiques de ce midi, dirigé par Henri de Lesquin, que nous diffuserons. Ce soir, à 18h, le libre journal d'Olivier Pichon. Et à 21h, les jeudis de l'Opéra. Ce soir, c'est le Sémillant Josselin qui vous présentera les chants sacrés par Roberto Alagna, avec le chœur et l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Très bon début de journée à tous et très bon Noël à tous. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 5h. Aujourd'hui, jeudi 25 décembre, il n'y a guère que pour les régions proches de la Méditerranée que le soleil devrait briller. Partout ailleurs, le ciel sera gris et parfois pluvieux. Pour ce qui est des températures, ce matin, elles sont de moins 5 degrés à Strasbourg et Lyon, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Marseille, 8 degrés pour Paris, Cherbourg, Rennes et Bordeaux. Cet après-midi, les températures devraient être de 3 degrés à Strasbourg et Lyon, 7 à Marseille et Clermont-Ferrand, 10 degrés pour Paris et Cherbourg, ainsi que pour Rennes et Bordeaux. Air Paris pour l'Île-de-France nous annonce un air de très bonne qualité, avec un indice 2. Le soleil se lèvera à 8h42 pour se coucher à 16h58. Et en ce jour de Noël, nous fêtons aussi Sainte-Eugénie ainsi que Sainte-Anastasie. Et voici à présent l'histoire de la nativité de Heinrich Schütz, interprétée par Irma Kirkby, soprano, par Nigel Rogers, ténor, par David Thomas, à la basse, ainsi que par le chœur et l'ensemble Taverneur, dirigé par Andrew Parrott. Il s'agit ici d'un disque compact EMI, référencé 747-633-2. Je répète, un disque compact EMI, référence 747-633-2. Et voici donc l'histoire de la nativité de Heinrich Schütz.
Radio Courtoisie.
Musique.
Sie fürchten sich sehr, und der Engel lacrimale.